tous, merci d'être venus. Donc on ne savait pas si ça allait intéresser du monde ou non. On a conçu les soirées entre la MJC de Ristorangis et l'Université populaire de Viry et Châtillon. Sur les deux villes, vous avez eu le programme, donc vu qu'on expérimente et que c'est la première ce soir, on était incapable de savoir s'il y aurait du monde ou non, si ça allait intéresser du monde ou pas. Donc nous, on a réservé une salle plus importante au cas où il y aurait trop de monde à l'avenir, là, ce qu'on espère, enfin plus de monde, il n'y aura jamais trop de monde, dans la salle de spectacle au cas où il y aurait vraiment beaucoup de monde. En tout cas, merci beaucoup d'être là ce soir. Donc, juste pour vous expliquer un peu, on a créé il y a de ça un an une université populaire, merci, au sein de la MJC, et donc on s'est beaucoup posé de questions sur le sens de cette université. Il y avait des gens qui nous disaient, voilà, il faudrait faire un lieu de conférence avec des conférences diverses et variées. D'autres gens qui étaient plus désireux d'avoir un aspect expérimental de ce qu'on pourrait faire d'un point de vue social. Et en fait, on a refusé de trancher entre les deux avis. Donc on a à la fois créé des groupes de travail, de recherche. On fait une première réunion le 25 septembre, on vous y invite. On vous expliquera comme ça un peu ce qu'on a travaillé durant 6 mois. Et on a conçu un cycle de conférences, mais on s'est dit sur quoi. On aurait pu aborder toutes sortes de sujets. On a fait le choix, à la lumière de ce qu'on voit à la MJC, notamment de ce que disent les jeunes, d'une méconnaissance à la fois de l'histoire, des institutions, de la politique, et à l'arrivée, une méconnaissance aujourd'hui des gens de ce qu'est une conscience politique, de connaître sa place dans le monde, dans la société et dans le pays. La France a une spécificité, c'est que nous sommes une république et qu'être un citoyen français, ce n'est pas appartenir à une religion, ce n'est pas appartenir à une ethnie, c'est de partager un certain nombre de valeurs communes qui sont les valeurs républicaines et qui fondent l'appartenance à la nation française. Donc, si ces valeurs ne sont pas en permanence enseignées, transmises, etc., le sentiment d'appartenance à cette nation se délite et se perd. Donc, on s'est dit qu'il serait très intéressant de faire une série de conférences à raison d'une fois par semaine sur les aspects historiques, économiques et philosophiques des idéologies politiques en France depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. Donc au fur et à mesure de l'année, on va aborder d'un point de vue global, c'est-à-dire qu'on a refusé de faire un trimestre économie, un trimestre institution, un trimestre histoire de tes idées. On a décidé de tout regrouper et d'imbriquer, mais en suivant une chronologie, c'est-à-dire qu'on va partir de la Révolution française et arriver à aujourd'hui. Donc ça va se faire aussi bien sur Ristorangis que sur Viry.
À la ferme.
Pascal, donc, qui est responsable, va vous en parler. Pascal nous a énormément aidé aussi à pouvoir trouver des conférenciers. Et on a fait le choix de demander à des hommes politiques de tous bords de venir exposer. Parce qu'on s'est dit qu'un homme politique aujourd'hui était pour nous, selon nous, un éducateur.
Une femme politique aussi. Non, je suis revenue tout de suite.
Voilà. Excuse-moi, Pascal. Et on ne regrette absolument pas ce choix, parce qu'on en a beaucoup parlé avec monsieur le maire, qui disait, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il est bon que des hommes politiques viennent? Oui, la réponse est oui. Et de tous les échos que l'on a eus, monsieur le maire, je peux vous assurer que les gens étaient très intéressés du fait que ce soit des hommes politiques qui viennent aussi aborder ça. Donc on vous redemandera de venir au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Il m'a dit oui déjà. Non. Il fait semblant. Il m'a dit je viendrai autant de fois que vous voudrez. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Donc on vous remercie beaucoup d'être là ce soir. Donc on a décidé de l'introduire ce soir sur la notion républicaine avant d'aborder le fil chronologique. Voilà, c'est ça un peu que je voulais vous expliquer. Pascal.
Oui, ben rapidement, parce que moi je suis heureuse, on travaille enfin en partenariat, hein, l'Université populaire de la MJC existe depuis un peu plus d'un an, l'Université populaire de Viry depuis 4 ans. On a peut-être un petit peu, j'ai envie de dire, rodé nos conférences. En même temps, cette année, pour la première fois, on élargit à d'autres modes, j'ai envie de dire, d'échanges. Par exemple, depuis 2 jours, on a organisé une exposition sur la laïcité, en lien avec les collèges et les écoles, qui tournera sur la ville de Viry-Châtillon, la bibliothèque, et je pense qu'à un moment donné, on la déplacera aussi ici à Risse, puisqu'il y a un des thèmes de la soirée qui est consacré à la question de la laïcité. On essaie d'élargir le mode opératoire autour de conférences, mais aussi autour de films, et particulièrement cette année, autour des problématiques définies. On aura aussi, avec le cinéma Le Calypso à Viry-Châtillon, la rediffusion, pour ceux qui le connaissent, du film de Rivette qui s'appelle La Religieuse, qui est tiré du livre de Diderot, avec une conférence deux jours avant sur Diderot. Donc toutes ces dates, on vous les communiquera de toute façon. Elles vont en plus compléter un cycle pour celles et ceux qui voudraient, sur un point particulier, continuer leur approche et leur échange. En attendant la cohérence de la conférence et de ces conférences, Max les a présentées. On espère que ça va vous séduire, au point que toutes les semaines, on sera de plus en plus nombreux. Et c'est pour nous important aussi d'avoir cet échange avec les citoyens et les citoyennes sur leur façon, leur approche de ce qu'est la citoyenneté aujourd'hui. On apporte modestement notre pierre à cet édifice plein d'ambition et en même temps plein d'enjeux. Bonne soirée.
Merci à vous.
Merci, monsieur le maire, d'être là.
Bon, eh bien, écoutez, d'abord, je vais simplement, avant de commencer le sujet qu'on m'a suggéré de traiter, quoi, pour être tout à fait franc avec vous, la formulation est une coproduction de cette, je ne sais pas s'il faut appeler ça une conférence, de cette discussion ouverte. J'ai réfléchi quand Max Le Guen m'a proposé, m'a parlé de cette idée des codes de la République, et accessoirement m'a proposé d'être un des intervenants. Je sais pas pourquoi, je trouve l'idée géniale, sûrement rencontrant une demande ou un besoin de la part d'un certain nombre de citoyens qui n'ont pas forcément le temps d'approfondir des questions qui, par ailleurs, leur tiennent beaucoup à cœur, quoique je vois dans la salle ici des gens qui sont beaucoup plus experts que moi sur les sujets dont je vais parler. Mais j'étais un peu gêné, et finalement j'ai essayé de réfléchir à la raison pour laquelle je me suis interrogé, comme Max y faisait référence, sur le fait de savoir s'il était bien que des politiques interviennent sur des sujets qui sont quand même à la lisière de l'histoire, de la philosophie, de la science politique. Finalement, est-ce qu'on a quelque chose à dire parce qu'on est politique sur ces sujets-là? Vous en jugerez dans quelques minutes. Mais je me suis surtout dit que, en fait, finalement, la République, je vais commencer par ça, c'est une extraordinaire exigence que je vais essayer de démontrer dans un propos historique très simple, et que cette exigence, elle ne peut pas être galvaudée par des propos qui seraient insuffisamment qualifiés. Et c'est sûrement ça qui m'a freiné dans un premier temps, puis après j'ai accepté l'exercice, donc je vais m'y livrer. Mais c'est vraiment un sujet, la République, c'est quelque chose qui ne peut pas être galvaudé. La République, c'est une construction multiséculaire, même elle a plus de 20 siècles. Et c'est vraiment une construction, c'est-à-dire que c'est pas naturel, la République. D'ailleurs, elle s'est jamais imposée naturellement. C'est une formidable exigence. Et je commence par là. J'espère que je serai à la hauteur modestement de cette exigence, mais je commence par là et par une définition toute bête de la République par rapport à d'autres formes possibles d'organisation de la vie publique. Et en gros, il y a trois grandes formes. On a coutume de dire qu'il y a trois grandes formes d'organisation des vies publiques. Il y a la République, c'est-à-dire, ça vient du romain et pas du grec, comme on le pense trop souvent, la res publica, la chose publique. C'est donc un gouvernement ou un État ou un système qui prétend organiser la chose publique. C'est rien d'autre que ça. sur des bases démocratiques, mais pas tout le temps. Il y a des républiques qui ne sont pas démocratiques et qui s'opposent à deux autres formes d'organisation des individus et d'une société, ces formes qui sont la monarchie, où là, on conçoit la vie en société comme la société, les gens qui la composent, mais aussi les administrations qui la composent, sont finalement des propriétés privées du roi. Donc il n'y a pas de notion de choses publiques. En tout cas, dans les grandes catégories, il y a une notion d'organisation, finalement, du domaine privé du roi. Les citoyens n'existant pas étant des sujets du roi. Et puis, il y a la théocratie, qui est un troisième type d'organisation des sociétés, qui vise à considérer qu'il n'y a pas de choses publiques, qu'il n'y a pas vraiment de domaine privé appartenant à un roi et à une dynastie, mais que la vie en société appartient à Dieu lui-même et que la légitimité de l'organisation, donc de la vie ensemble d'un certain nombre de personnes qui vivent dans le même territoire, relève de celui qui est investi de cette fonction par Dieu. Les trois grands modes d'organisation des gens sur des territoires, c'est la République, c'est la monarchie, c'est la théocratie. Avec trois sources de légitimité, Dieu, le roi parce que c'est sa propriété finalement et donc il organise, ou une chose publique, et c'est tout le monde qui organise cette chose publique. Et en disant ça, qui est un propos très très général mais qui permet de commencer, je précise tout de suite qu'aujourd'hui dans le monde, une très grande partie des systèmes politiques sont des républiques. Alors, la République, c'est un peu la Samaritaine. Hein. Vous avez des républiques socialistes, démocratiques, populaires, islamiques. C'est un terme générique qui recouvre des disparités de situations extrêmement grandes, qui recoupe des situations de république plutôt démocratique et de système politique qui se revendique d'une république sans être démocratique. Mais comme ceux qui fondent la République, c'est l'idée qu'il y a une chose publique, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à tous. C'est ça, le sens profond de la République. Il n'y a pas à être sûr, et que donc la société s'organise, ou le souverain, ou les pouvoirs publics ont vocation à organiser cette chose publique. Il n'y a pas de contradiction théorique, en tout cas, à imaginer que telle ou telle république africaine qui est... gouverner dans des conditions lamentables par tel ou tel dictateur, se revendique et est quand même une république. D'ailleurs, les dictateurs, très souvent, ne disent pas que le pays leur appartient, même s'ils se comportent comme s'ils leur appartenaient. Mais au contraire, prétendent organiser au mieux la société et la vie des gens qui y habitent en fonction du fait que c'est bien eux qui ont la responsabilité d'organiser la chose publique. Je pense comment. Je vois qu'il y a quelqu'un déjà. Un bras qui se lève, on peut tout à fait s'interrompre. Hein, moi, ça ne me pose aucun problème. Vas-y, je t'en prie.
Vous compreniez tout à l'heure, M. Mondon, par rapport au niveau des républiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que, justement, l'autre jour, je relisais, suite au documentaire sur France 2 sur Apocalypse, que tout le monde dans cette salle a dû, je pense, regarder. Donc aujourd'hui, le président Obama a dit, voilà, moi, le bouclier qui avait été décidé par M. Bush, c'est bon, je l'annule. Donc ça remet en cause beaucoup de choses. Donc vous disiez, attendez, il y a des républiques, il y a machin, chacun compose comme il peut. Maintenant, comment on fait?
Alors ça, pour le coup, je vais essayer d'expliquer ça dans le détail longtemps, mais... Ce qui est vraiment bien important de comprendre dès le démarrage, c'est que la République est une forme d'organisation de la société qui suppose qu'il y a en commun des choses qui appartiennent à tous les membres d'une société. C'est la chose publique. Après, on va rentrer dans le contenu. Il y a des républiques qui sont parlementaires. C'est-à-dire que vous pouvez organiser les choses en disant, finalement, on va laisser le parlement. Parlement, au Parlement, la responsabilité de cette organisation de la chose publique. Il y a des systèmes politiques comme aux États-Unis qui sont des systèmes présidentiels, c'est-à-dire qu'en gros, on va laisser à un président, évidemment avec des contre-pouvoirs, élu de telle ou telle manière, la responsabilité d'organiser les choses. Il y a des régimes qui sont des régimes semi-présidentiels, même si pour la France, aujourd'hui, on est dans un truc un peu difficile à qualifier, mais peu importe, où, en gros, il y a un président qui organise, et à côté de lui, il y a un Parlement qui est censé organiser aussi, voilà. Mais dans les trois mêmes régimes, il y a l'idée que quelqu'un ou quelques-uns doivent prendre en charge l'organisation de la société au nom de tout le monde. Voilà. C'est ça la République. Et avec ça, on va voir que cette République prend des formes très différentes et que moi j'ai pensé que ce dont on allait parler ce soir, et d'ailleurs pendant tout ce trimestre, c'était la République en France, qui a une forme tout à fait particulière, qui a un contenu tout à fait particulière, qui a des conditions d'émergence, de formation puis d'émergence tout à fait particulières, et qui d'ailleurs, on va le voir, puisque je vous propose de balayer toute la période de la Première République jusqu'à aujourd'hui, qui dicte de manière absolument troublante que toute la vie politique sérieuse et tous les débats politiques sérieux encore d'aujourd'hui. Mais je vais faire ce point de définition parce que c'est pour bien qu'on parte sur les mêmes règles. Juste pour ceux qui sont intéressés par creuser philosophiquement l'émergence de cette idée, qui est quand même une idée très 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 ancienne, hein, puisque considérons qu'elle naît avec Cicéron, même s'il y a eu des écrits avant, peu importe, avec Platon, avec Aristote, donc chez les Grecs, puis chez les Romains, et plutôt d'ailleurs formalisé chez les Romains que chez les Grecs, mais enfin peu importe. Donc là, je parle d'une période qui est en gros entre 300 avant Jésus-Christ, que cette idée qui naît à peu près à ce moment-là, qui non seulement naît, mais s'incarne à ce moment-là, à Rome, on parle souvent de la République romaine. La République romaine, c'est vraiment une tentative d'organisation de la société sur des bases qui n'étaient pas totalement démocratiques, enfin peu importe, mais d'organisation collective de la société. C'est une idée qui ensuite évolue beaucoup au Moyen-Âge, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que il n'y a pas la richesse et la possibilité de débat qu'il y a aujourd'hui. Les gens qui lisaient les textes, qui lisaient Aristote, qui lisaient Platon, qui lisaient Cicéron, ils se comptaient sur les poignées d'une main. Et c'est surtout des religieux qui, à l'époque, faisaient ces traductions de ces ouvrages-là. Et donc, on était sur une vision de la République qui laissait quand même énormément de place, qui concevait que la chose publique était toute petite par rapport à la part de la vie privée des individus et aux dimensions privées, aux croyances des individus. Finalement, c'est avec la Renaissance qu'apparaît progressivement l'idée que l'essentiel des activités dans une société relève de la vie publique et donc doit être organisée comme telle, d'abord par le roi, et puis progressivement, il y a beaucoup d'écrits à partir du XIIIe, XIVe, XVe siècle surtout avec Machiavel, sans le roi, l'idée qu'il n'y a pas besoin d'un roi pour organiser la vie publique. Et puis après, 17e et surtout 18e siècle, vous avez la naissance de républiques authentiques, donc qui ne sont plus des monarchies, il n'y a pas besoin de roi. Une des toutes premières, c'est le Texas, aussi paradoxal que ça puisse paraître. C'est une des toutes premières républiques qui existait, ça doit être dans les années 1700, je ne sais plus combien, 50 ou quelque chose comme ça. Puis ensuite, l'expérience dont je vais parler, de la première expérience de la Révolution française, et le Commonwealth en 1649. Bref, à partir de la Renaissance et jusqu'en 1800, se forme l'idée que la chose publique peut être prise en main d'une manière ou d'une autre par les citoyens, par les gens eux-mêmes, par un processus d'élection plus ou moins large des représentants qui sont chargés d'organiser la société. Voilà le petit point de départ que je voulais faire. Et maintenant, je vous propose qu'on fasse un peu d'histoire. Parce que quand on parle de la République en France, quand on parle de la République aujourd'hui, on parle de la 5e République. Et donc, s'il y en a, si c'est la 5e, c'est qu'il y en a eu 4 qui l'ont précédé. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'insister trop longtemps là-dessus. Comment ça s'est passé? Comment on arrive à cette 5e République? Et quelle est l'histoire de la République en France? Et au-delà de cette histoire, qu'est-ce que cette histoire nous enseigne pour aujourd'hui? La première République, probablement vous l'avez à l'esprit, qui a été créée en France, a été créée en 1792. Donc elle a été créée après le début de la Révolution française, puis comme vous l'avez à l'esprit, pendant la Révolution française, il y a eu toute une période dans la première phase de la Révolution française où un certain nombre de personnes, y compris des représentants les plus illustres du tiers-État, ont pensé qu'on pouvait continuer à organiser la société, que le roi pouvait continuer à organiser la société, mais qu'il fallait le pousser à être beaucoup plus social, beaucoup plus démocratique, avec un parlement. Donc là, on était encore en monarchie, 89 à 92, bien qu'on soit déjà en révolution, on était encore en monarchie. Le roi n'était pas dessaisi de ses pouvoirs. Il y a même des révolutionnaires très illustres qui étaient authentiquement pour une monarchie éclairée, avec un souverain qui serait le bon père d'un peuple, qui s'appuierait sur un parlement qui sera un parlement légitimé, élu, mais donc il n'y avait pas, dans le premier temps en tout cas, une contestation du roi. Et là, cette contestation monte progressivement pour un certain nombre de raisons, mais là on n'est pas là pour faire l'histoire de la Révolution française, ce serait beaucoup trop long. Et à partir de 1792, pardon, le 21 septembre pour être tout à fait précis, la Première République est proclamée et elle va vivre à peu près 12 ans. Elle vivra jusqu'en 1804, date à laquelle Napoléon, par coup d'État, sera proclamé empereur. Et donc quand on a un empereur, on n'est plus en république, puisqu'il y a quelqu'un qui se proclame empereur et qui, sur la base très souvent de sa puissance militaire, prétend organiser, avoir seul la charge de la responsabilité de la vie d'une société. Donc cette première république, 72-1804, couvre toute la période de la terreur, puis de l'après-terreur révolutionnaire. La terreur 93 et surtout 94, et puis l'après-terreur. Ensuite, couvre une période du directoire, où, comme vous vous le rappelez probablement, la France est dirigée par un certain nombre par trois personnes, hein, pour faire les choses très très simplement. Puis la période du consulat, où de ces trois personnes, une seule émerge, c'est Napoléon. En l'occurrence, Napoléon, Bonaparte à l'époque. Puis, fin donc en 1804, où Bonaparte se proclame empereur, devient Napoléon, et c'en est fini de la République. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette période-là qui est intéressant pour la suite des événements? Cette première République, d'abord, crée quelque chose qui n'a quasiment pas existé jusqu'alors, qui est le suffrage universel. En fait, quand on dit suffrage universel, évidemment, on ne parle pas des femmes. Ce qui est intéressant, comme sémantiquement. C'est-à-dire qu'on dit très souvent la Première République a créé le suffrage universel. Elle a en effet donné le pouvoir à tout le monde de voter. Mais en fait, elle ne l'a pas donné aux femmes, même s'il y a eu des débats entre les révolutionnaires. Mais comme j'ai vu que vous aviez parlé de l'homme de gauche, je crois, à Viry-Châtillon, je ne sais pas si qui va faire ça, c'est Pascal, peut-être qu'il va faire ça. Vous aurez cette discussion à ce moment-là. Condorcet a écrit des pages fantastiques sur le droit du suffrage universel aux femmes, mais il faut savoir que dans cette période de l'histoire française, on retrouve ça très très bien décrit dans la Révolution française, dans le premier volume de la Révolution française de Michelet. Les femmes sont suspectées d'être complètement aux mains des curés, d'avoir la tête... Non mais je vous dis les choses, vous verrez, il y a des pages absolument sidérantes, extraordinaires d'ailleurs à lire, complètement manipulée par les curés, et que si on donnait, c'est la raison principale pour laquelle on ne donne pas le droit de vote aux femmes à ce moment-là, c'est qu'on est persuadé que si on donnait le droit de vote aux femmes à ce moment-là, la monarchie reviendrait. Que, voilà, voilà, donc,
c'est pour ça que la de Gouges a été bloquée.
Enfin, c'est plus compliqué, mais ça, c'est la semaine, c'est je ne sais plus quand, vous aurez ça. Donc ça, c'est une première réalisation. Il y a énormément de réalisations sociales, mais ça, je dirais que à ce moment-là, c'est le deuxième aspect. C'est la République, comment dirais-je, la première République est une République qui sur un certain nombre de domaines, l'organisation du travail, par exemple, il y a la première formalisation des contrats de travail, il y a la première ébauche d'horaires de travail. Dans les entreprises, ça n'existait pas avant. Enfin, donc il y a des choses très intéressantes sur l'émergence du droit social dans la Première République, mais avant 92, et d'une certaine manière d'ailleurs presque sous l'Empire, aussi, le progrès social et la volonté quand même socialement de faire un certain nombre de mettre en place un certain nombre de politiques étaient présents. Donc c'est pas vraiment ce qui caractérise cette Première République, même si sur beaucoup de points évidemment elle est très très innovante. Mais ce qui la caractérise surtout, d'abord et avant tout dans l'histoire de France, c'est la démocratie, cette volonté démocratique, même si elle produit la terreur. Enfin, la terreur, c'est du règlement de compte entre élites. Entre élites élues. Légitimes. Après, il y a leur compte, c'est pas terrible. Au passage, d'ailleurs.
Oui, ils sont des jalousies. Ce sont des...
Enfin, jalousie, c'est beaucoup plus compliqué, mais là, on va pas faire l'histoire de la Révolution française, sinon on n'est pas sorti de. D'ailleurs, je serais incapable de la faire. Mais c'est la Première République. Ce qu'il faut retenir, c'est la République se fonde en France sur la volonté démocratique. C'est une rupture considérable, parce que jusqu'alors, il y avait un suffrage qu'on appelait un suffrage censitaire, votait une partie assez étroite de la population française. Je crois que dans les périodes les plus hautes, c'est 700 000 personnes qui ont voté avant 1792. Et quand arrive la première élection au suffrage universel, il y a 17 ou 18 millions d'électeurs. C'est un bouleversement absolument
considérable. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est quand même une révolution bourgeoise? C'est la bourgeoisie qui a tel pouvoir.
Mais de toute façon, la République, on va voir. Hein. Excusez-moi, mais on va retrouver ça. Enfin, en tout cas, jusqu'à la 5e République, on est.
La face en parlant de l'ensemble des citoyens.
Bah, oui, mais l'ensemble des citoyens, bon, enfin, il fallait d'abord. Il fallait savoir lire, il fallait savoir écrire.
C'est ça, oui, ouais. C'était illettré. Hein,
et ça, c'était un privilège à l'époque. Il n'y avait pas que le privilège de naissance, de richesse, il y avait le privilège du savoir, il y avait le privilège de la parole, il y avait le privilège du voyage.
Bien sûr.
Les gens étaient arrivés, alors le pain de terre, enfin bon, il y a toute une organisation qui fait qu'en effet, soit on était religieux et on pouvait circuler, on savait lire, et on passait son temps à ça et parler, soit on était fortuné. Relativement fortunés, où on était dans des professions qui émergeaient, les avocats, ainsi de suite, et on pouvait parler, il y a énormément d'avocats, mais sinon, c'était. Mais peu importe qu'ils fussent, enfin qu'ils aient été des bourgeois, ils n'en étaient pas moins, même bourgeois, par rapport à l'organisation précédente de la société sous la forme de la royauté. C'est un énorme ressourcement social que les élites politiques de la Révolution française. Je passe, j'arrive à la deuxième Révolution. Donc elle s'arrête, la première, la deuxième République. La première s'arrête avec l'Empire. La deuxième...
Excusez-moi.
Oui.
Aux États-Unis, quand il y a eu la Révolution, les présidents n'étaient pas élus? Je ne connais pas.
Non. Pas tout de suite. Non. Fin 19e.
Si je puis me permettre.
Fin 19e.
Au niveau de ce...
1875.
Vous l'avez souligné, qui savent lire. Il ne faut pas oublier que à l'époque de
et écrire.
La Révolution française et même avant, il y avait aussi, et depuis Gutenberg, les gens qui connaissaient le monde de l'imprimerie. Et qui, effectivement, pour être typographe, connaissaient comment on écrivait, comment on véhiculait un message révolutionnaire. Donc, ils ont essayé. Alors, il n'y a pas eu forcément que des grands bourgeois ou des gens qui avaient beaucoup de notoriété ou beaucoup d'argent pour véhiculer quelque chose qui était de l'ordre. Voilà, on ne veut plus de ça. Il y avait aussi des gens qui savaient lire et écrire, qui étaient des gens modestes.
Oui, mais l'élaboration de la pensée, ça ne pouvait être que par des bourgeois, enfin, des gens qui avaient des connaissances.
Non, pas forcément. Non, à partir du moment où vous prenez quelqu'un qui est paysan, c'est pas forcément parce qu'il ne sait pas lire qu'il n'a pas la notion du bon sens.
Si je peux me permettre de vous interrompre, non pas pour c'est une discussion intéressante, mais pour qu'on avance. Mais je renvoie ceux que ces sujets passionnent, et notamment l'organisation de l'opinion publique. Parce que s'il y a une république, il y a une opinion publique. Dans la Révolution, il y a un livre fantastique qui s'appelle « La République au village » de Michel Vauvel, V-O-V-E-2-L-E, qui décrit magnifiquement comment ça se passait entre ceux qui savaient lire et pas lire et ceux qui le savaient, c'est-à-dire les classes éclairées dans chaque village. Et notamment, il y a tout un travail qui a été fait sur la rédaction des cahiers de doléances. Et il y a quelqu'un qui tenait la plume. Il y a quelqu'un qui tenait la plume. C'est celui d'ailleurs qui très souvent est allé ensuite a été élu aux États généraux. Mais il y avait une parole très très large. Déjà, les gens savaient pas lire, savaient pas écrire, mais enfin ils avaient des idées. Ils se disaient, il y en a marre des impôts, il y en a marre de la façon dont le Seigneur traite nos femmes. Enfin bon, il y a donc une opinion publique qui est née. Mais voilà. Et donc c'est... D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il y avait ceux qui savaient, qui maîtrisaient les savoirs et qui étaient actifs dans la Révolution, et puis que les autres étaient là.
Non, mais c'était bien avant cela, monsieur, si vous me permettez. C'était aussi les écrivains publics depuis longtemps. C'était aussi Molière, c'était aussi Voltaire qui disaient, ben voilà, qu'est-ce que c'était que le bouffon du roi, qu'est-ce que c'était aussi que celui qui sait se moquer d'un royaume. Donc qui revient bien avant la Révolution française, c'est dire voilà, mais effectivement, on va vous apprendre nous. On va mettre notre savoir, ce que l'on est, les comédiens qui étaient franchement des gens qui étaient dénigrés, voilà, on sait aussi se moquer du pouvoir et petit à petit, chemin faisant, on en est venu à ce que ça peut être la Révolution française et le siècle des Lumières, de Condorcet.
Alors, je passe à la seconde. Vous l'avez à peu près en tête. 48, 24 février 1848, 2 décembre 1851. En 48, avant le 24 février, on est sous une monarchie à nouveau. Il y a eu Napoléon, empereur, puis on a basculé en monarchie, et on est en monarchie, une monarchie qui s'appelle la monarchie de Juillet. C'est très compliqué, l'histoire de la monarchie entre la fin de Napoléon en 1848. Ça n'a pas d'intérêt pour notre sujet, même si c'est passionnant, parce que déjà on voit dans la monarchie des débats qu'on va retrouver dans la République. Non, donc le 24 février 1848, il va y avoir une deuxième République qui s'achèvera le 2 décembre 1851, là encore par un coup d'État. C'est la deuxième fois que ça se termine de la même façon, de Bonaparte, mais l'autre, Louis Bonaparte, dit Napoléon III. 1848, 1851.
1848, c'est une révolution.
Je vais en dire deux mots. 1848, 1851. Et ça, c'est très important parce que les deux premières républiques naissent à peu près dans les mêmes conditions. Je vais vous dire deux mots de la naissance. Finissent à peu près dans les mêmes conditions. Coup d'État. Et l'histoire de la République en France est marquée par ces origines-là. Comme avant 1789, c'est sur la crise économique que naît la Révolution de 1848 et sociale, la Révolution de 1848, et donc l'avènement de la Deuxième République. Il y a eu des problèmes de récolte terribles entre 1945 et 1946, la situation économique de la France est vraiment extrêmement mauvaise. Il y a des famines, enfin bon, c'est extrêmement difficile. Et à l'époque, le pays est gouverné donc par Louis Philippe et par son ministre des finances qui s'appelle Guizot. On est sous un suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'il y a une assemblée, pas beaucoup de pouvoir. Il y a 261 000 électeurs en France. Mais il y a une bourgeoisie qui est déjà extrêmement puissante et qui pousse devant la crise économique et sociale à ce que le régime, la monarchie, ouvre plus largement le droit de vote pour que des élections aient lieu et que l'Assemblée, c'est toujours la même chose, on ne voulait pas renverser le roi encore au début, l'Assemblée qui soit élue plus largement, qu'elle soit plus représentative de l'état du pays, qu'accessoirement elle porte des revendications sociales qui sont extrêmement fortes. Il y a 200 000, je vous l'ai dit, il y a 241 000 électeurs à l'époque, hein, sur un pays qui fait 35,5 millions d'habitants. Donc il y a tout un débat qui se fait. Le roi ne veut pas ouvrir plus largement le vote. Les républicains, qui se revendiquent comme tels à l'époque, s'organisent et font des banquets, puisqu'ils n'ont pas le droit de se réunir, ils n'ont pas le droit de publier, et ils n'ont même pas le droit de se présenter aux élections. C'est comme ça que naît la tradition des banquets républicains en France, et c'est une tradition qui a perduré extrêmement longtemps. Ils créent quand même un journal malgré les difficultés. Le pouvoir, voyant la montée de plus en plus forte des républicains, voyant l'apparition des premiers socialistes, à l'époque 1848, à laquelle apparaît une gauche encore plus dure et plus revendicative que la gauche dite républicaine, en tout cas que les républicains. Le gouvernement interdit les banquets, il y a des émeutes, enfin je passe tous les détails. Il y a des barrières, du coup, le 22 février, je crois qu'il y a il y a plus d'une quinzaine de morts dans une manifestation après l'interdiction d'un banquet à Paris. Le gouvernement interdit toute manifestation. À Paris, les gens se révoltent, barricadent. Et le barricade assez puissante, et le roi est devant la difficulté, enfin le choix cornélien pour lui de savoir s'il envoie la troupe tuer les gens qui ont fait les barricades ou s'il capitule. Et finalement, ce qu'il décide, c'est de passer le témoin à son fils qui s'appelle le comte de Paris, qui est quelqu'un qui est extrêmement jeune, qui n'est pas en état de gouverner. C'est donc sa mère qui doit gouverner. Ça ajoute à la crise politique. Les républicains prononcent un gouvernement provisoire le 24 février deviennent donc gouvernement provisoire donc de la République, la Deuxième République, et prennent progressivement le pouvoir, puisque l'armée ne réagit pas et la royauté divisée ne réagit pas. Donc là, naissance de la Deuxième République, la première chose que font les républicains, c'est rétablir le suffrage universel masculin et élection qui, le 25 février, décision de faire des élections qui auront lieu en avril. À l'époque, les chefs des républicains, c'est Lamartine, c'est Arago, ceux qui s'intéressent à ces noms-là. La République naissante rétablit le suffrage universel le 25, abolit l'esclavage le 27, met en place un certain nombre de réformes sociales extrêmement puissantes, notamment les ateliers, comme il y a beaucoup de chômage, les ateliers nationaux de Louis Blanc, vous avez sûrement entendu parler de ça. C'était l'idée, en fait, qu'il fallait que les gens qui étaient sans emploi puissent travailler dans des... et que pour ça, l'État républicain organise des ateliers qui donnent du travail aux gens qui n'en avaient pas. Réduit la durée du travail. Première mesure sociale qu'il prend. La durée du travail à l'époque, c'est 12 heures à peu près par jour. Il réduit de 1 heure en province, ça passe à 11 heures, et 2 heures à Paris, ça passe à 10 heures. Prononce des élections qui auront lieu le 23 avril. Pourquoi j'insiste sur cette période? C'est qu'elle est très intéressante, à plus d'un titre, pour bien comprendre la spécificité de la République française. Démocratie, suffrage universel, volonté sociale. La première, c'était pas tout à fait le cas, parce que la volonté sociale a commencé avant la Première République, et d'une certaine manière, ça prolongera un peu après la Première République. Volonté sociale. Et troisième point, combat de cette République naissance contre les autorités religieuses. C'était déjà le cas pour la Première République. En effet, le ralliement d'un certain nombre de notables de province à la République dresse les anciens monarchistes, enfin les monarchistes, qui étaient quand même très très puissants, et une grosse partie des églises, contre la République, avec deux thèmes de combat. Le premier thème, les monarchistes et les ecclésiastiques, demande de pouvoir conserver la capacité d'organiser l'éducation qui n'est pas encore l'éducation nationale, d'avoir la responsabilité de continuer à prendre en charge l'organisation de l'instruction de tous les petits Français. Et deuxièmement, proteste très très vigoureusement, ça se passe à l'Assemblée, puisqu'il y a la République, mais il y a un Parlement qui a été élu le 23 avril, qui donne une très forte majorité de républicains, 500 personnes, 200 monarchistes à peu près, et une centaine de radicaux, donc des socialistes, parfois très, 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 très rouges. Et cette assemblée, enfin, le parti dit qu'on appelait à l'époque le parti de l'ordre, proteste très très vigoureusement contre les mesures sociales, contre les ateliers nationaux de Louis Blanc, et dit en gros que ça coûte très cher d'aider les chômeurs.
Ça n'a pas changé.
Mais pourquoi, justement ? Pourquoi une telle question, alors que justement ça va dans le sens des choses ?
Parce que c'est la République, c'est aussi le débat, c'est la diversité des opinions. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que là, on est dans la Deuxième République et on a un certain nombre de thèmes. La question de la République contre la monarchie alliée avec une partie du haut clergé, enfin, du clergé. La question des mesures sociales ou du refus des mesures sociales, la Deuxième République est une République qui se fonde sur des enjeux qu'on va retrouver dans la Troisième République, qui sont des enjeux qui caractérisent l'idée républicaine, au sens où apparaît de manière intrinsèquement liée une République qui, pour s'asseoir, a une ambition sociale forte, entend limiter les religions, en l'occurrence à l'époque la religion catholique, c'est de ça dont on parle, à la part qui est la sienne, c'est-à-dire la religion, mais n'entend pas lui laisser plus d'espace, même s'il n'y a pas encore d'organisation, comme on le verra dans la Troisième République, de l'école, mais entend limiter la religion à la part qui doit être la sienne, qui est la part privée, et entend faire en sorte que la religion ne s'occupe pas de la vie publique.
Oui, mais aujourd'hui, si on reprend ces textes-là, c'est strict au sensu la même chose, les mêmes combats.
C'est un peu ce que j'essaye de démontrer, là, enfin peut-être maladroitement, mais c'est ce que j'essaye de démontrer pour arriver à la conclusion. Donc je passe vite sur la deuxième, on pourrait rentrer dans les détails, on y reviendra si vous souhaitez. Si vous êtes passionné par la République, et si vous avez quelque chose à lire, lisez l'histoire de la Deuxième République. Parce qu'à travers ce que je vous dis, beaucoup d'exemples, vous avez la loi Falloux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ça date de là, donc tous les débats sur l'organisation ou pas de l'éducation nationale, l'organisation des libertés publiques, les difficultés des républicains qui se divisent, il y a le bloc de gauche, ce que j'appelais les radicaux qui commencent à monter, les républicains se divisent, il y a les républicains qui disent « Ah, il faut s'allier avec le bloc de gauche », parce que c'est ça vraiment l'identité de la République. Il y a d'autres républicains qui disent « Oulala, danger, attention, il faut peut-être passer un accord avec les monarchistes, le parti de l'ordre pour stabiliser tout ça, parce qu'on ne sait pas où tous ces rouges vont nous mener ». Et puis il y a surtout une question, il y a une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution est très intéressante parce qu'elle définit précisément les conditions dans lesquelles le président de la République est élu. Le président de la République est élu pour 4 ans. Au suffrage universel, mais il n'est pas rééligible. Pourquoi il n'est pas rééligible ? Parce que souvenir de la Première République, souvenir de Napoléon, et on se dit, attention, il y a eu un tyran une fois, il ne faut pas qu'il y en ait un deuxième. Pas de peau, comme les républicains sont divisés entre eux, je ne rentre pas plus dans les détails, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un candidat. Louis et Napoléon, donc le deuxième qui va devenir Napoléon III, lui, il a envie d'être candidat. Il se présente et il fait 75% des voix. Tout se passe bien, donc quelques temps, 3 ans et demi, jusqu'à ce qu'il soit presque au terme, donc 48, 49, 50, 51. À ce moment-là, il est presque au terme de son mandat, puisque c'est 4 années, et il agit près de l'Assemblée pour avoir le droit de se représenter. Donc on modifie la Constitution. L'Assemblée, pourtant cette fois, où il a un rapport de force très favorable parce qu'il y a une partie des républicains qui est d'accord et puis il y a toujours une partie de l'ordre qui est très puissant, lui refuse la possibilité de se représenter, et résultat, deuxième coup d'État, fin de la République. Le coup d'État de Napoléon est justifié par le fait que, en fait, il ne pouvait pas se représenter. Fin de la deuxième République. Il est quand même assez malin parce qu'il se dit maintenant, bon, ok, je fais mon coup d'État, mais il fait un plébiscite quand même après le coup d'État. Ça, vous avez tout ça en tête. Et ça, c'est très important aussi parce que c'est un débat qu'on va retrouver dans la Ve République sur le référendum. Il a le pouvoir, il a pris le pouvoir, mais il se dit il me faut quand même l'onction populaire. Et donc il se tourne vers le peuple, il dit est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai fait ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai fait. 92% des 72% des Français qui votent, 92% des Français qui votent disent vous avez bien fait. C'est peu importe, une très large majorité des Français disent vous avez bien fait, on n'en parle plus. Fin de la Deuxième République. Troisième République, septembre 70. 1870, juillet 1940, 10 juillet 40. Pour la première fois, la République ne naît pas de crise sociale. C'est la Troisième République. Là, pour la première fois, elle ne va pas naître d'une situation économique et sociale. Elle va naître de la guerre avec les Allemands, que la France perd en 1870. Et comme la France perd en 1870, Napoléon III est capturé à Strasbourg. Donc là, il y a quand même
Sedan,
absolument. C'est Gambetta qui est le leader de l'opposition qui prononce le gouvernement provisoire de la République le 4 septembre 1870. Élection en février 71, avec une République qui, cette fois, en 71, envoie à l'Assemblée, donc c'est une république, hein, à nouveau, il n'y a plus de roi, il y a un gouvernement qui sera élu désigné à partir de l'élection législative, donc de 1871, à l'Assemblée, une majorité monarchiste. Donc c'est en 71, la première majorité de la Troisième République est une majorité parlementaire monarchiste. Donc là, il commence à y avoir une digestion des monarchistes par la République, même si là, eux, ils veulent agir pour le retour du roi. Mais il y a toute cette histoire, vous savez, sur est-ce que le roi va ou pas accepter le drapeau bleu, blanc, rouge, ou est-ce que il continue à s'accrocher au drapeau blanc. Alors les monarchistes parlementaristes somment le roi d'accepter le drapeau bleu, blanc, rouge, symbole de la République, et s'il accepte le symbole de la République, il pense qu'il peut devenir monarque, entre guillemets, parlementaire, un peu à l'anglaise. Voilà, c'était ça leur rêve. Sauf que après avoir un peu hésité, le
comte de Chambord.
Exactement, le comte de Chambord, qui devrait être le roi, refuse en deux ou trois circonstances. Et donc, les troubles politiques sont quand même assez forts entre les monarchistes et les républicains. C'est l'époque des protestations à Paris, connues sous le nom de la Commune de Paris, qui seront réprimées dans le sang. Et on a d'ailleurs longtemps pensé que Thiers, qui gouverne à ce moment-là, avait utilisé la Commune pour faire peur à la branche la plus dure des monarques, les monarchistes, pour asseoir plus directement la République. Et donc, après ces hésitations, le Thiers propose à l'Assemblée de rédiger un projet de constitution, pensant qu'il aura plus de possibilités pour faire rédiger le projet de constitution qu'il souhaite, lui, il dit à l'Assemblée, écoutez, je vous demande de faire ce que je souhaite, sinon je démissionne. Pas de peau, cette menace marche, les gars le laissent démissionner. Bon, ça c'est, et donc il est suivi par un premier ministre qui s'appelle MacMahon, enfin rentrons pas trop là non plus dans le détail, qui fait élire une constituante, donc une assemblée qui doit rédiger la constitution. Et finalement, après les débats là aussi extrêmement compliqués entre les monarchistes, les républicains modérés, les républicains les plus durs, la Troisième République passe à une voix de majorité. Ça, vous avez probablement, vous savez ça. Quelles sont les caractéristiques principales de cette République? Elle repose sur l'idée d'un président de la République qui serait élu pour 7 années. C'est là, en fait, apparaît le fameux septennat contre le cinquième, qui soit rééligible, mais qui soit dépourvu de pouvoir réel. Les pouvoirs réels étant confiés au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est une période paradoxale, la Troisième République, parce que c'est une période qui va être très troublée au plan politique. Il y a beaucoup de changements d'alliance, il y a beaucoup d'élections, il y a beaucoup de variations des majorités. Mais en revanche, c'est dans l'histoire républicaine une période qui va être très très riche pour asseoir la République. Progressivement, donc l'œuvre de la Troisième République, vous l'avez en tête, l'organisation de l'éducation nationale, avec là pour le coup organisation publique de l'éducation nationale, avec la volonté, comme les monarchistes sont toujours alliés avec les ecclésiastiques, la volonté donc de former les citoyens de demain, d'asseoir la République naissante sur l'instruction donnée au plus grand nombre de jeunes citoyens français, un grand développement des libertés publiques, mais aussi beaucoup de droits individuels. C'est la Troisième République qui fonde le droit au divorce, qui n'existait pas avant, qui fonde un certain nombre d'organisations de la famille, et qui, plus ça va aller, plus va, dans un premier temps, entre guillemets, rougir, et l'affaire Dreyfus, qui dans les années 90, enfin un peu plus de 90, ou environ des années 1895, permet à la gauche, paradoxalement, après quelques hésitations de départ, de s'organiser, dans sa diversité, mais de s'organiser. Donc plus elle va aller, plus la Troisième République va être marquée, bien que les radicaux à l'époque, qui sont les plus modérés des hommes de gauche, gouvernent, mais cette République va voir s'organiser. Et les socialistes dans un premier temps, et à partir du début du XXe siècle, ce que sont devenus les communistes, et donc cette Troisième République va aboutir au Front populaire 1936.
Est-ce que je peux m'arrêter sur 1901?
J'allais y arriver. Parce qu'il faut avoir traité plus simplement les choses. Donc, Front populaire en 1936, puis la guerre, puis l'abdication des pouvoirs par l'Assemblée nationale elle-même à Pétain en juillet 40, après la défaite. Donc, j'ai parlé de l'œuvre, l'éducation, les libertés collectives. Quand je disais liberté collective tout à l'heure, je ne faisais pas référence au droit d'association en 1901. Dans les Français, donc de chacun s'organiser comme il l'entendait pour défendre ensemble des buts particuliers. Le droit d'association, c'est très important parce que c'est la République, la chose publique qui reconnaît aux citoyens la possibilité de défendre en son sein des droits ou des intérêts particuliers. Ça rend beaucoup plus fort la chose publique que d'arriver à s'articuler avec les besoins particuliers, et puis donc là, très fort volet social dont l'aboutissement sera le Front populaire, quel que soit par ailleurs le regard que les uns et les autres puissent porter sur cette période.
Monsieur Mangeant, vous parliez tout à l'heure de l'affaire Dreyfus. Au niveau de l'île Zola et au niveau de ce que fut ensuite les syndicats et tout le reste, et Germinal, et effectivement au moment de l'affaire Dreyfus, c'était pas le moment au niveau de la République française, le plus petit des choses. C'était quand même ce qui a été fondateur de toute une République qui se met en marche également. Et avec des combats qui ont été très difficiles d'un côté comme d'un autre.
C'est là encore, la question sociale est au cœur. Alors,
elle
est au cœur des.
C'est pas le plus petit des choses. Je pense que si aujourd'hui en France il existe encore certaines valeurs qui régulièrement, de temps en temps, reviennent au jour, et quelquefois sur certaines vidéos maintenues sur Internet, on est encore dans cette notion-là de dire, voilà, on défend des valeurs humaines avec nos convictions, quelles qu'elles soient, politiques, syndicales, mais surtout avec un contexte littéraire. Et on ne trahit pas les mots.
Donc, volet social très fort. Troisième République, et surtout organisation politique, gauche, droite, et les différentes gauches, c'est là que sur la troisième, que les choses apparaissent. Quatrième République, je vais vite parce que ça fait pratiquement une heure que je parle et il faut que j'arrive aux éléments essentiels, me semble-t-il, de conclusion de tout ce parcours. Quatrième République, donc 45-58, ça vous avez ça en tête, juste après la Seconde Guerre mondiale, donc référendum de 45, puis organisation d'une constituante. Avec des forces politiques qui sortent de la guerre, qui un échiquier qui est profondément bouleversé. Hein, vous avez le Parti communiste qui est à l'époque très très fort à 26%, le MRP à 23%, la SFI ou ce qui vient le Parti socialiste à 23%. De Gaulle qui est chef du gouvernement, essaye de mettre en place une constitution, puis qui très vite considère qu'il lui est pas possible de travailler avec les partis politiques tels qu'ils sont, donc démissionne. Mais ça, c'est une période que certains d'entre vous ont peut-être connue, donc je vais beaucoup plus vite. Premier projet de constitution rejeté par un référendum en 1946. Deuxième projet de constitution accepté. Caractéristique de l'organisation de la République à ce moment-là, un président potiche. Là, c'est le souvenir de Pétain. On ne veut plus un type qui fasse qui est le compte à rendre à personne. Deux chambres, un Sénat et une Assemblée. L'Assemblée qui a des pouvoirs, le Sénat qui est censé n'en avoir moins, mais enfin quand même pouvoir tempérer les décisions de l'Assemblée. Et une œuvre politique, là je passe très très vite, qui sera d'abord le suffrage universel, enfin et vraiment pour la première fois, 46. Droit de vote des femmes, toujours après les guerres, hein, qu'on donne le droit de vote des femmes, comme elles ont tenu la maison pendant que les gars étaient au front, on se dit là, il faut peut-être quand même payer un peu la dette, quoi. Il n'y a pas le seul pays en France où ça soit passé. Un très fort volet social, la sécurité, la fondation de la sécurité sociale, mais aussi l'organisation, toute l'organisation du, enfin une grosse partie de l'organisation du droit du travail, plein de choses sur lesquelles je ne m'étends pas, simplement pour dire qu'on retrouve dans la quatrième, comme dans la troisième, comme dans la deuxième, moins dans la première, enfin c'est plus dans la première, mais c'est pas seulement la première, toujours les mêmes constantes, un très fort volet social. Chaque république est porteuse d'un projet social qui est une réponse à une demande sociale extrêmement, extrêmement forte et d'une avancée démocratique. En l'occurrence, là, c'est le vrai suffrage universel. 58, Algérie, 5e République, on y est, je passe pour arriver à ma conclusion qui est plutôt un appel à la discussion. Si on fait le bilan de ce long retour en arrière et de ces enseignements de l'histoire, qu'est-ce que la République, au fond ? C'est la question qui est posée. L'organisation de la République française est marquée à travers les siècles par quelques grandes constantes. J'ai parlé du volet social, le suffrage universel dès la première, le suffrage universel dans la deuxième et l'abolition de l'esclavage, tous les droits sociaux, les libertés publiques, l'organisation de l'école sous la troisième, la sécurité sociale sous la quatrième et sous la cinquième. J'ai plutôt envie de dire que les choses se passent quand même beaucoup autour de 81 pour qu'il y ait un volet social sous la 5e République, en plein de mesures, mais c'est quand même là que le saut le plus net est marqué. Deuxième élément, toutes les républiques et la République française, tout le temps, naît à ses ennemis. C'est le roi sous la première, les monarchies sous la première. C'est le roi sous la seconde, hein, je termine en empire. C'est l'Église sous la troisième, alliée des monarchistes. C'est l'adversité économique sous la quatrième, la reconstruction. Sous la cinquième, on est de ce point de vue-là beaucoup plus apaisé. Il n'y a pas d'ennemis. Mais.
C'est pas
une question d'ennemis là, c'est une question, c'était pas les ennemis de la France, personne, c'était pas été perçu, mais parce que je vais arriver à mon idée, parce qu'on parle aujourd'hui de la crise de la République, et je vais essayer de comprendre pourquoi il y a une crise de la République, indépendamment du fait que la République est nationale. C'est une idée de nation, et qu'évidemment, quand la nation perd de pouvoir au regard des évolutions européennes, de la construction européenne, on peut comprendre que ça perturbe l'idée républicaine. Mais il y a une perte d'adversité sous la Ve. Alors qu'elle est très claire sous toutes les républiques qui l'ont précédée, 4e, 3e, on voit très clairement quelle est, contre quoi la République s'organise. Il y a une perte d'ambition sociale sous la 5e. Vous voyez, quand je fais le bilan social de la 5e, j'ai pas de choses aussi fortes à vous dire que j'en ai quand on fait la sécurité sociale sous la 4e ou l'école républicaine sous la 3e. Il y a une perte d'ambition sociale. Et finalement, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la crise de la République, alors il faudrait aller beaucoup plus loin, mais ça on peut le faire dans la discussion, il y a une forme de disparition du sentiment de la part des citoyens. Il n'y a plus la foi républicaine qu'il pouvait y avoir dans les républiques précédentes, c'est-à-dire cette idée qu'il était absolument impérieux d'associer le plus possible de citoyens à la vie de la cité par le progrès social pour que cette cité soit plus forte et pour qu'elle puisse se défendre contre une adversité qui était identifiée, qu'elle s'appelle le roi, qu'elle s'appelle l'Église ou qu'elle s'appelle la pauvreté et la reconstruction économique après la quatrième. Et cette idée de perte de foi et de perte de l'urgence républicaine est à mettre en parallèle avec ce qu'on décrit très souvent comme la montée de l'individualisme, le fait que l'individu semblerait, alors là, pas faire du café du commerce, mais semblerait plus soucieux de son bien-être personnel, de sa vie personnelle, que de la cité. Je termine, moi, sur cet aboutissement. La République, c'est quoi, finalement? La République, c'est un projet collectif. Mais c'est plus qu'un projet collectif, c'est une adhésion collective des citoyens à un projet collectif. À travers les temps, ça a toujours été ça, la République. C'est une organisation des pouvoirs publics qui sépare la chose publique de la chose privée, ce qui se décline très concrètement dans des valeurs que, par exemple, des valeurs comme la laïcité, dont je crois que vous allez parler lors d'un de vos débats, qui est une valeur absolument fondamentale en France, parce que justement elle explique à la fois, elle fonde la particularité de la République française, et elle s'explique par l'urgence de cette République à se défendre contre des forces qui l'ont contestée. Et cette dimension de la réalité de la République historique est probablement aujourd'hui ce qu'il faut refonder. Comment on peut retrouver une grande foi collective? Comment on peut retrouver une grande ambition sociale? Comment on peut retrouver aussi le sentiment d'une forme d'urgence dans une société qui est de plus en plus dépendante de mouvements internationaux, d'une organisation internationale, de plus en plus soumise à des forces du marché et à des forces de consommation qui subliment l'individu, qui survalorise l'individu et qui dévalorise les procédures collectives. S'il me semble que, à travers les réflexions qui seront les vôtres dans le mois qui vient, il y a quelques éléments de réponse à trouver. C'est sûrement dans cette perspective là comment aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, refonder et le sentiment d'urgence et l'ambition sociale et démocratique qui a été au cœur de toutes les républiques. Je pense qu'il n'y a pas plus tâche plus urgente pour ceux et celles qui veulent réfléchir à la République dans les années qui viennent.
Sauf si on a épuisé le sujet.
Bah là, c'est moi j'ai terminé, c'est la discussion qui je vous laisse devant cette. Attendez, on va organiser peut-être les choses, ce sera plus simple,
oui,
non?
Oui, on va organiser les choses. Donc, on a prévu à chaque fois environ une heure d'exposé. Et puis ensuite, une heure environ de débat avec la salle, débat ou demande de précision pour revenir sur un élément que vous n'avez pas bien compris, etc. Donc ce que je me propose, c'est avec les personnes qui veulent prendre la parole.
Mettez-vous là, peut-être avec, ouais, venez avec moi, ça. Vous allez m'aider, ouais, comme ça.
Et comme ça, je donnerai la parole aux personnes. Voilà. C'est toujours les premières questions qui sont les plus difficiles.
Oh ben là, manifestement, il n'y a rien à craindre.
Oui,
sur la question tout à l'heure de savoir qui écrivait les cahiers de doléances et le reflet de l'opinion publique, nous avons ici à Ris un très très bel exemple de recherche historique locale menée par le groupe d'histoire locale qui s'appelle Brutus Sylvan Ris et qui est un petit bouquin, un bon bouquin que vous trouvez à la bibliothèque, et vous saurez tout sur comment dans une toute petite commune très rurale, assez loin de Paris mais pas trop, mais très rurale, eh bien, ces cahiers ont été élaborés, comment les débats locaux ont nourri, et c'était vraiment des débats. Hein, la révolution de 1789 ne s'est pas faite qu'à Paris. Hein, elle a vraiment essaimé dans l'ensemble du territoire, ce qui n'était quand même pas le cas de la commune de Paris, qui a été vraiment très contenue par les puissances publiques de l'époque dans quelques capitales, soit Paris, soit des capitales régionales. Donc elle n'a pas pu se répandre sur l'ensemble du territoire. Mais Brutus Sylvan Ris, c'était aussi une belle pièce de théâtre de Catherine Régulard.
En 89, c'est pour le bicentenaire.
Oui, monsieur.
Oui, si pour reconstruire une république, il faut trouver un adversaire, je crois que la finance internationale est le premier des adversaires. Alors, est-ce qu'il faut reprendre, de défendre les services publics, c'est-à-dire revenir à la fin de la guerre avec, en défendre le programme du CNR? Je pense qu'il faut aller plus loin et donner plus de pouvoir aux salariés, aux individus, aux citoyens, et donc trouver une république plus démocratique. Parce que je pense que la démocratie, c'est ce qui est difficile, et c'est un combat permanent. À partir du moment, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une république où les gens mettent un papier dans une urne tous les 5 ans, et qui est donc un bulletin, un chèque en blanc, pour que ça soit une vraie démocratie. Donc la démocratie, en effet, ça demande l'intervention des citoyens, et en particulier quand on leur retire, par exemple, les services publics, eh bien, il faut quand même qu'ils se battent pour les conserver, sinon c'est une régression sociale.
Monsieur.
Oui, un peu dans la même veine. Vous avez fini, M. Mondon, en disant, en parlant de disparition de la foi républicaine, montée de l'individualisme, enfin, un peu sur le mouvement interrogatif. Mais je me demande dans quelle mesure, s'il y a des signes en fait de disparition de l'attachement républicain des Français, si ce n'est pas en fait dû à l'architecture institutionnelle, c'est-à-dire de la République elle-même. Par exemple, bah oui, parce que les débats ont eu lieu à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, enfin à la Constituante en 1789, il a fallu choisir dans les débats entre faire une démocratie ou faire un système parlementaire. À bien des égards, ce débat-là, qui a été tranché pour un système parlementaire en mandat libre, c'est-à-dire dans lequel les citoyens étaient là uniquement au moment du vote, ce débat n'a jamais été repris. Et on se retrouve maintenant avec des gens qui sont en grande partie conscients qu'ils sont dépossédés de tout pouvoir. C'est-à-dire que ils sont de temps en temps, tous les 5 ans, appelés à voter pour un président de la République et des députés, ce qui est aberrant. Enfin, bon, je fais ma parenthèse. Et puis ensuite, ils n'ont plus rien à dire. On l'a tellement bien vu. Moi, j'ai travaillé sur les OGM, sur le Grenelle de l'environnement sur les OGM. Grenelle de l'environnement sur les OGM, il avait dit qu'il fallait, il avait conclu, qui était quand même un exercice de démocratie participative, il avait dit qu'il y aura une loi qui garantit le sans OGM. Qu'ont fait le gouvernement et les parlementaires? Ils ont fait une loi qui garantit la présence d'OGM. Les Français, en 2005, se sont prononcés, quoi qu'on ait répondu, oui ou non, à près de 55% contre le traité constitutionnel. Et en 2008, le 4 février, que fait le gouvernement et la majorité des parlementaires? Ils approuvent le traité de Lisbonne, qui est très largement similaire, comme tout le monde le reconnaît, y compris Sarkozy, quand il avait été surpris par un micro qui traînait dans une réunion à Nantes. Alors, comment voulez-vous que d'un côté, on s'intéresse à la politique, on veut participer à la vie collective, quand les institutions trahissent complètement la volonté publique.
Ouais, tout à fait.
Alors c'est pour ça qu'on a évoqué tout à l'heure les services publics. Moi, je milite pour l'abolition de la 5e République et la remplacer par autre chose. Je milite pour une constituante. Prenez par exemple le projet de loi sur que j'ai reçu plus tard qu'hier, présenté au Sénat concernant la Poste. Il est dit là-dedans, dans les attendus en début de texte, que la transformation en société anonyme se fera dans le cadre de capitaux d'État ou publics. Mais jamais il est dit que la propriété de ce service public appartiendra à la nation, appartiendra aux Français. La propriété publique est exclue, en fait, de la République. La propriété privée, elle, depuis le début, depuis 89, est bien quelque chose qui est garanti, mais la propriété publique, absolument pas. Or, bon, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Les Suisses à côté, hein. On peut toujours ricaner sur les Suisses, mais n'empêche que les Suisses, ils ont des droits d'initiative législative, ils ont des droits de référendum. Ils peuvent se prononcer eux-mêmes et avoir l'initiative eux-mêmes, alors il y a des critères, effectivement, sur telle ou telle évolution. Et pour revenir sur les OGM, parce que c'est un sujet que je connais, les Suisses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont saisis du problème des OGM, ils ont demandé un référendum, enfin, ils ont eu une initiative dans ce sens-là, c'est pas venu de leurs élus, et ils ont eu un débat public, et ils ont pris un moratoire pour 4 ans sur les OGM. Donc, on a effectivement des pertes, on accuse l'individualisme. Moi, je pense que c'est l'égoïsme qu'il faudrait accuser, non pas l'individualisme. L'individualisme, ça a du bon quand même, parce que quand les femmes, au nom d'individualisme, luttent contre les mariages forcés, moi je pense que ça a du bon. Hein. Je pense que ça a du bon. C'est l'égoïsme qui est le repli sur soi. Mais il faut quand même que les institutions aident, nous aident à ça. Parce qu'on ne peut pas tout le temps être dans l'héroïsme auquel les Républicains faisaient allusion pendant un moment, en permanence à investir l'espace public.
Voilà. Si vous voulez bien, moi je vais rebondir aussi par rapport à ce qu'a dit M. Maire, enfin je rentre dans le débat. À la fin, il a conclu en disant, voilà, il y a des choses qui se répètent sur les 4 premières républiques qu'on retrouve plus aujourd'hui. Il dit, sur les 4 premières républiques, il y a des ennemis de la République, clairement, enfin, très visibles dans l'espace public. Il dit, il y a une ambition sociale très forte. Et puis, il y a une espèce de foi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a il y a un rêve, c'est-à-dire qu'il y a une promesse de la République. Et je pense que je partage un certain nombre de points, mais moi je les formulerai autrement. C'est-à-dire que moi je pense qu'aujourd'hui, l'un des problèmes de la République, c'est qu'il y a bien des ennemis de la République. Mais on est incapable. Il y a bien des ennemis de la République, mais on est incapable de savoir qui est. Je pense que vous avez des idées, vous, moi j'en ai aussi, mais je pense que cet ennemi est invisible dans l'espace public.
Laissez-le développer son point de vue et vous interviendrez après.
Moi je pense que cet ennemi, il n'est pas facilement visible et compréhensible. C'est-à-dire que c'est quoi la finance internationale?
Beaucoup parlé pour ne rien dire, parce que l'ennemi, c'est pas beau, c'est pas tout de dire il y a un ennemi, c'est de proposer quelque chose.
Non, mais justement,
si vous avez peur de l'ennemi, c'est qu'il a des projets.
Mais on a des propositions. Hein.
Attendez, je vais finir la présentation.
Non, mais ça
rejoint. Là, c'est beaucoup plus simple. Attendez, là, c'est beaucoup plus simple de savoir désigner l'ennemi dans l'espace public lorsqu'il est là, lorsqu'il dit qui il est, lorsqu'il dit qu'il est en opposition. Hein, je veux dire, à l'époque où vous avez le clergé qui est un ennemi de la République revendiqué parce que le pape, etc., est contre la République, c'est quand même facilement repérable. Vous voyez, c'est quoi la finance internationale? Vous voyez, je veux dire, dans l'espace public, c'est-à-dire que ça réclame un haut niveau de conscience politique et de compréhension des phénomènes. Voilà. La perte de l'ambition sociale, moi je crois qu'il n'y a pas perte de l'ambition sociale. Je veux dire qu'il y a des revendications sociales extrêmement fortes aujourd'hui, mais les 4 précédente république jusque, et même la cinquième jusqu'en 83, on va dire, on sent des capacités fortes de l'État d'intervenir, ne serait-ce qu'en 80 avec les nationalisations, etc. Et que on fait penser aux citoyens aujourd'hui que l'État n'a plus matière à intervenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui fait que dans l'esprit du citoyen, bah, il se dit par où je vais être défendu démocratiquement. Démocratiquement, qui va me défendre dans l'espace public ? Et de là, donc, je pense qu'il y a un véritable changement. C'est la disparition de ce rêve républicain qui est quelque part la toute puissance du progrès, qui est de dire mon enfant vivra mieux que moi. Voilà. Hein, donc, je veux dire, et ça, c'est vraiment un changement très important, parce que lorsqu'on vous dit peut-être dans 70 ans, la planète se sera réchauffée de 6 degrés et qu'il sera pour toute une série d'individus impossibles de vivre. Hein. Lorsqu'on vous dit que d'ici à 2020, il y a 1,5 milliard d'habitants qui n'auront plus accès à l'eau potable, là, on n'est même pas dans un rêve de vivre mieux. Est-ce qu'on va réussir à survivre, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, par rapport à ça, la question, c'est est-ce que la politique, est-ce que l'action publique peut changer les choses ? Ben, c'est ça le débat. Et évidemment, pour ceux qui ont les outils de réflexion pour le comprendre et agir, mais je pense que pour toute une série de personnes aujourd'hui, cette conscience politique-là a disparu, parce que moi, je pense que s'il y a un changement, c'est qu'il y a une montée du niveau culturel des gens. Moi, je le pense. Je pense que si jamais on fait l'analyse des gens, alors je sais pas, moi j'ai pas des outils statistiques, etc., mais le niveau de illettrisme en 1900 et le niveau d'illettrisme aujourd'hui, je pense qu'il a considérablement diminué. Donc le niveau culturel des gens a dû considérablement augmenter, mais le niveau de la conscience politique, de la compréhension de qu'est-ce que c'est que l'action publique, de l'action collective, de en quoi j'ai une place pour agir dans la cité, la société, et en quoi, en tant que citoyen, je peux transformer le monde. Est-ce que je peux encore agir sur les choses ? Je pense que ce sentiment-là est en train de partir, quoi. Et lorsque ce sentiment-là disparaît, la République, elle le disparaît. Je veux dire que si je n'ai plus le sentiment de pouvoir agir sur les événements, sur ma vie, alors à quoi bon une république ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense que dans ce que vous avez dit à la fin, dans votre conclusion, je veux dire que j'ai un partage de ce que vous dites, mais à un moment donné, comment tous ensemble, c'est-à-dire et en premier lieu desquels les hommes politiques, mais aussi les services publics, mais aussi les associations d'éducation populaire, mais aussi l'école, on retravaille à la création d'une conscience politique pour dire aux citoyens, vous devez et vous pouvez agir sur votre quotidien et votre avenir. Oui, monsieur. Vous avez demandé... Oui.
Et alors, je vais répondre d'une façon très simple, enfin, si je peux, hein, c'est un petit peu compliqué pour vous répondre. Donc, je vais répondre sur deux volets. Le premier volet, moi, je suis travailleur social et je travaille auprès de personnes atteintes de sclérose en plaques, pour ceux qui me connaissent un petit peu, où la notion d'intégration républicaine, personnes qui sont atteintes d'une pathologie, donc elles sont totalement innocentes, le fait d'avoir, depuis la loi 2005, une accessibilité au lieu public, on est vraiment là dans l'esprit de la République, où on n'est pas à faire du dénigrement, quel qu'il soit, existe bel et bien. Maintenant, je discutais avec une de mes voisines très 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 récemment, quand vous parliez d'esprit de la République et du parcours social de chacun, dans le fait de dire, voilà, chacun n'est pas innocent, dans la notion d'intégrer l'autre à une notion de République. Nul ne serait être innocent en disant, voilà, c'est Bertolt Brecht qui disait, le jour où j'ai dénié tout le monde, ils sont venus me chercher parce que j'en avais plus rien à faire les autres, et moi, effectivement, ils m'ont gazé comme tous les autres, parce que je ne me sentais pas concerné par les autres. Moi, j'ai une de mes voisines qui m'a dit, bah, écoute, moi, je veux bien y aller au débat, mais toute seule, j'ai peur d'y aller, parce que je me sens en insécurité. Oh, il s'agit de la ville de Ris-Orangis, il s'agit d'un quartier très proche. Et je lui dis, bah, écoute, c'est pas un problème. Si tu veux, je suis là à telle heure et tu viendras. À partir du moment où il y a une seule personne qui commence à se dire, je ne vais pas y aller, je ne peux pas y participer, parce que je ne suis pas dans un sentiment de sécurité ou d'accessibilité, qu'elle soit handicapée ou pas, l'handicap c'est aussi le fait d'avoir peur d'être agressé, je pose la question. Alors, dans quelle république on est en train d'évoluer, ou plus exactement, de désévoluer? Et pour autant, dans la ville de Ris-Orangis, dans laquelle j'habite depuis quand même plus de 40 ans, on n'est certainement pas dans la dévolution de la personne handicapée ou âgée ou quelle qu'elle soit. Mais pour autant, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit, bah, écoute, si tu veux, je viens, mais toute seule, j'ai peur. Ou tout seul, j'ai peur. Alors que pour autant, la démocratie, elle est là.
Monsieur, non.
Oui, bon, juste un point, là, je ne vois pas trop le point commun entre la République et la peur. Hein,
justement, si vous êtes en République,
Monsieur, j'ai vécu en monarchie, donc en Angleterre, je n'avais pas peur de sortir. C'est pas trop la République.
Je ne suis pas en train d'opposer deux systèmes.
Non, mais il faut pouvoir comparer, c'est intéressant.
Je suis en train de dire au quotidien, de proposer au quotidien, de dire voilà, puisqu'on est dans
un projet, donc.
C'est plus qu'un projet, puisque la République, comme disait M. Mondon, ça fait quand même quelques siècles qu'elle existe, ça fait quand même 300 ans et quelques qu'elle existe. C'est-à-dire, voilà, n'importe quel citoyen, citoyenne et citoyenneté peut se débrouiller, doit pouvoir se débrouiller pour aller voter en mairie de Ris-Orangis ou pour aller se déplacer dans n'importe quel commerce depuis la loi 02-2005 et la loi 02-2002. Il faut dire, voilà, quelle que soit votre situation de handicap ou de pathologie ou de couleur depuis le départ des droits de la citoyenneté, vous pouvez vivre. C'est bien le crescendo de la démocratie. On est bien d'accord. Maintenant, il n'est pas question de dire, voilà, la démocratie française est mieux que la loi anglaise. C'est pas mon credo. C'est dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce que j'ai entendu il y a très peu de temps et auquel je pense qu'on aurait... Bon, absolument pas, c'est à peu près la même chose de ce que je suis en train de dire. J'écoutais tout à l'heure à la radio, ben voilà, il est question que de... Il n'y a plus de 100 gars, et ben effectivement, à Calais, ben on exclut tout le monde, mais on répond absolument pas à la question. Moi, j'ai des résidents auxquels je m'occupe, qui disent, ben moi, je peux même pas aller retirer une carte bancaire parce que c'est même pas accessible, parce que je suis handicapé. Ou moi, je suis une femme, je suis noire, je ne peux pas aller dans cet endroit-là. On repose le même problème de la démocratie et de la République. Normalement, dans la République, tout homme et femme, normalement, naît en droit et égaux, quelle que soit sa couleur et sa religion. Et là, pour ce qui me semble, à 44 ans, je n'ai pas constaté que les choses avaient plus progressé que ça. Depuis les années, j'ai constaté un certain nombre de choses.
Nathalie, et juste, attendez aussi pour recentrer, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'intervention? Hein? Des questions par rapport à l'intervention? Pour qu'on les regroupe aussi et qu'ils puissent répondre. Oui, Audrey.
Dans votre intervention, vous disiez que les caractéristiques particulières de la République semblent être le progrès social, une ambition sociale, etc. Est-ce que ça veut dire que si on est de droite, on n'est pas républicain? On ne peut pas l'être.
C'est une très bonne question.
Est-ce qu'on est forcément socialiste quand on est...
Non, c'est une très bonne question, au contraire. Très très bonne question.
Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à l'intervention?
Oui, c'est pas une question, c'est peut-être un petit complément. Moi, j'ai été intéressé par l'exposé de M.
Lambert.
Il y a quelque chose qui m'a frappé dans cet exposé, c'est effectivement les quatre républiques réunies, des programmes de progrès sociaux, des conquêtes sociales, démocratiques, les deux là. Et la réalisation quand même un peu de droit, effectifs, plus ou moins, etc. Et cette cinquième, je n'avais pas eu cette réflexion, mais vous l'avez mise en évidence dans votre exposé, cette cinquième qui, quand même, ne vient pas du tout sur ces fondements-là, enfin, sauf erreur de ma part. Hein.
C'est ça,
la thèse. Hein. Mais en fait, j'ai cru que votre langue avait fourché. Vous auriez pu dire, au moment où vous l'avez dit, je pense, les monarchistes ont commencé, en 70 peut-être, je ne sais plus
comment ils s'est formé cette forme, en
70, à digérer la République. Et, ils l'ont, et je me demande si 58, enfin je me demande, je crois que 58 est une bonne digestion par les descendants des monarchistes d'une République, y compris encore la 4e, 46, avec sa constitution, qui sert de préambule et de cache-chasse, parce que les droits sociaux qu'elle proclame ne sont absolument pas réalisés, et serait d'une modernité sans nous, si on s'attelait à les réaliser aujourd'hui. Si 58 n'est pas d'abord l'État, d'une certaine manière, une reconquête sur un programme du Conseil national de la Résistance, en tout cas, elle n'est pas marquée par des conquêtes sociales le moins du monde, et 81, qui est évoqué, mais qui a quand même une femme 3 ans après, c'est ça ? 3 ans après, je me souviens, 20 ans, c'est trop, c'est beaucoup, c'est trop long, etc. Disaient les jeunes de 80, face à la droite. 81, c'est une grosse promesse, tant attendue, mais c'est une belle leçon de la République dont on cause, a peut-être épuisé, faussement en réalité, mais épuisé, c'est sa force propulsive, parce que c'est quand même une énorme désillusion. Je pense pas que la. Enfin, bien sûr qu'elle a des ennemis, la République, c'est assez certain, la finance internationale, une partie du clergé qui est en train de retrouver d'ailleurs sa place, malheureusement, une mauvaise place dans la société, mais c'est un mauvais clergé, il y en a un plus éclairé que celui-là aussi, hein, quand même, il faut s'en souvenir, il le connaît. Et je voulais dire, c'est pas, enfin, je pense qu'ici, la plupart des personnes qui sont là n'ont pas de mal à, tant sur le plan des droits, alors, parce que j'entends, votre exposé aussi, de ce point de vue-là, m'intéressait, et enfin, ça résonnait mes oreilles, la République n'est pas la démocratie. La meilleure preuve, c'est que nous sommes en République, et nous ne sommes pas en démocratie, ou en tout cas, nous sommes à un certain degré de démocratie, mais enfin, quand le suffrage universel est à ce point, simplement en France,
Allez vous promener en Irak.
Pas fidèle.
Allez vous promener en Irak. Attendez, vous ne pas raconter comme lui.
S'il vous plaît, vous allez répondre. Ce serait intéressant que vous répondiez à Monsieur le maire, à Audrey et à. Votre nom ?
Denis.
Merci, Denis.
C'est une très très bonne question, la droite et la République. Et c'est une très bonne question. L'essentiel de la droite, enfin une partie significative de la droite est républicaine et authentiquement républicaine. Et il demeure une droite anti-républicaine puissante. Front National, c'est rien d'autre que ça.
Mais vous savez, rien n'est simple, hein, parce qu'en 40, qui a voté les pleins pouvoirs pétain, c'est une majorité.
Non, mais c'était pas la question, parce qu'elle me dit, en gros, son raisonnement qui était intelligent, elle dit dire, vous définissez la République par une ambition sociale, ce qui est tout à fait exact, je pense que c'est ça, et que d'ailleurs cette ambition sociale, elle n'appartient pas à la gauche, elle appartient à la sécurité sociale, ça a été fait par...
Oui, qui l'a inventé.
Donc la gauche aurait tort de revendiquer par elle-même et pour elle-même les seuls acquis sociaux de la République, parce que ce faisant, elle s'apprête à légitimer même de la République, mais donc la droite est républicaine, il y a une droite républicaine, en tout cas théoriquement, parce que je vais arriver à la cinquième, parce que Denis a bien compris, moi, quelle est ma thèse, mais je ne veux effaroucher personne ici, mais je pense que la cinquième est fondamentalement un système anti-républicain. Voilà. De par sa naissance, ça naît quand même, quoi qu'on en pense, d'un coup d'État. Je ne vais pas refaire le coup d'État-Parlement. De par sa naissance, de par la structure de ses pouvoirs, c'est un instrument de coercition, ce n'est pas un instrument de progrès, c'est un instrument de dépossession des individus et non pas un instrument de participation des individus, que je pense, en effet, vous avez très bien compris mon exposé, mais après, j'en suis pas pour autant un révolutionnaire, mais je pense sincèrement que la cinquième, c'est la dissolution du projet républicain historique de la France. Voilà ce que je pense. c'est résumé très très, mais je peux l'étayer, et pour autant on est en démocratie et tout, et que on a fait, en effet, il n'y a plus d'ennemis parce qu'ils sont dans le temple.
Oui, absolument.
On les a fait rentrer dedans. Oui. Les gens qui sont, ce discours sur l'organisation communautaire, sur la laïcité positive et sur tous ces trucs, c'est quoi d'autre que du recyclage à l'intérieur de la République de choses. Moi, je respecte profondément les religions, et je respecte profondément les religieux. Vous voyez, j'ai aucun problème à me définir comme républicain, que je suis authentiquement, et dans un dialogue avec la religion. Mais la religion, c'est la sphère privée, c'est pas la sphère de l'organisation des pouvoirs publics. La laïcité, elle a pas à être positive ou négative, ou elle est ou elle est pas. Voilà. Donc je pense exactement ça. Je pense que la cinquième, c'est la dissolution du projet républicain. Avec moi, mon sentiment, je plaide pour une sixième république depuis très longtemps. Je continue pour ça. Je la verrai peut-être jamais de mon vivant, mais ça, c'est pas grave. Hein. Faut un peu avec... Parce que je crois que si on part pas sur des bases différentes des bases fondatrices de la cinquième, c'est la dissolution du projet républicain. Je suis authentiquement républicain.
Oui, je voulais, par rapport à ton enthousiasme républicain dans les fondations de la République, je dirais oui, parce que tu as parlé des moments où elles ont été fondées. Parce que si on voit le développement des républiques, les républiques fondées dans un enthousiasme répudiant la phase juste précédente, alors la plupart du temps il y a des révolutions en France à ces moments-là ou des guerres, donc quand même elles sont toutes nées dans la crise et le chaos, eh bien il ne faut pas oublier que ces mêmes républiques qui ont les 4 ou 5 points sociaux et populaires que tu as annoncés ont toutes en même temps pratiquer objectivement et sciemment, publiquement, avec le vote de la totalité des députés, constamment des politiques antisociales, ne serait-ce que les conquêtes coloniales de la troisième, les reprises coloniales de la quatrième qui a fait la faillite de cette République, même si sa constitution était intéressante, elle a été ruinée par économiquement et politiquement par la reprise des guerres coloniales. Le Front populaire a été liquidé, et c'est pas étonnant qu'on n'ait pas résisté au moment de la guerre, dans la mesure où le Front populaire a été une espèce de révolution dans la Troisième République, et bien il a été liquidé dans les promesses non tenues. Donc à chaque fois, la poussée qui amène un acquis fait que tout de suite derrière se recompose une difficulté. La liquidation des guerres coloniales n'a pas été faite seulement à partir du coup d'État. Elle a été faite à partir d'une forte résistance populaire. Mais sur cette résistance populaire, on a eu ensuite les promesses non tenues tout au long de la Ve République et la désespérance. Moi, je dirais, il faut toujours voir les deux aspects dans le processus. Hein, parce que c'est un processus. On verra plus en détail les républiques par chacun quand ils vont y revenir. Vous verrez que c'est extrêmement contradictoire qu'elles naissent dans l'enthousiasme et qu'elles meurent dans la faillite. Hein.
Comme tout régime.
Nathalie, tu as demandé la parole.
Je pensais à ce que vous disiez, effectivement, à la montée en flèche de chacune de ces républiques. Moi, je m'en souviens de ce que nous disait les Romains, qui s'étaient battus, qui avaient fait de guerre, et qui nous étoient des possibilités que nous n'avions pas à l'époque, et qui se battaient pour ces valeurs. Et maintenant, dans le cadre de l'Union populaire, quand on écoute les gens, effectivement, ils disent, mais on n'a aucun pouvoir, on n'a aucune possibilité de faire les choses. De toute façon, quoi qu'on dise, ils passeront outre, en parlant des gens qui sont au-dessus d'eux, dans une sorte d'impuissance, qui me dit, mais comme vous dites, la République, c'est la chose publique, mais ils ne sont plus intégrés dedans. Ils sont à l'extérieur. Et là, je me dis, il y a quand même un danger, parce que ces gens-là, on dirait qu'ils sont déjà victimes et que c'est une faiblesse pour une nation. Parce que des gens qui se font, une majorité de gens qui se disent, moi, je ne vais pas voter, parce que quand on voit le nombre de gens qui ont voté dernières élections, on se dit que ces gens-là, s'ils ne votent pas, s'ils n'agissent pas pour leur pays, on n'est pas fort en tant que nation. Il n'y a qu'une seule partie des gens qui participent. Et est-ce que c'est vraiment un bien pour notre pays qui a besoin en ce moment, on est, faut dire ce qui est, hein, taux de chômage, délocalisation, etc. Il y a quand même une situation qui est là, alors qui concerne beaucoup bon, les gens qui travaillent, les jeunes, etc. Si on ne se bat pas pour ces projets-là, pour ces choses-là, quel est le devenir de cette République? Alors maintenant, est-ce que ce n'est pas une occasion pour justement faire un terreau pour une autre République, que les gens se battent? Je ne sais pas, je pose la question. Mais moi, en tant que personne active, jeune, je me pose la question, si personne n'a mon âge de voter, ce que je vois dans mon entourage aussi, moi je ne vote pas, de toute façon quand je vote pas, ça ne me servira à rien. Et je me dis si déjà cet âge-là il baisse le bras, parce que ça va être l'avenir des enfants. Quoi. Et puis cet enthousiasme de dire bah tu es responsable, tu peux participer comme une goutte dans l'océan. Les gens ont perdu ça. C'est désespérant, des fois, je me dis, à la limite, je trouve plus de hargne et de combativité chez les gens d'une certaine génération qui ont vécu des moments très durs et qui, eux, se disent que oui, tu veux quelque chose. Bon, on m'a toujours appris, tu veux quelque chose, tu remontes, tu retrousses tes manches. Là, ils me disent, mais à quoi bon ? Et c'est ça que je me dis, le débat sur la politique, la force de la politique, il faut que les gens y croient, il faut qu'ils se battent, et je trouve que ça disparaît.
Claudel ?
Oui, mais moi je pense que la République, ça m'est donné de part en temps de faire une nation. C'est la nation qui a porté la République. Mais la nation, c'est quoi ? Aujourd'hui, vu d'aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose d'un peu abstrait. Hein, parce qu'on a, on s'en bat très bien ce que c'est que la nation. On nous balance du citoyen du monde partout. On veut faire l'Europe en défaisant les institutions, les institutions dans lesquelles on a vécu, on a vécu, on est habitué. Et d'autre part, c'est vrai aussi que la nation, c'était une espèce de point d'équilibre, sans doute un peu abstrait, entre des forces qui n'étaient pas forcément dans le même sens à l'intérieur de la République. Hein, il y a des forces très contradictoires au travers de l'histoire. Qui se sont confrontés et la République et ce que l'on a appelé la nation qui correspondait quand même à un problème de territoire. Hein. Il y avait un périmètre qui, pendant cette période républicaine, s'est quand même constitué, formé aussi bien par l'association, enfin le rassemblement des provinces, des pays, des provinces internes au cadre national. Il y a eu les guerres avec les voisins. Donc, il y a le fait que l'économie s'est constituée à l'intérieur aussi d'un périmètre national. Aujourd'hui, la nation, elle est défaite et les périmètres nationaux sont défaits par toutes sortes de forces. Hein. D'où cette notion qui était très vivante à un moment donné, nous semble aujourd'hui beaucoup moins vivante, parce que quand on regarde après dans la pratique de la vie quotidienne, c'est quoi la nation, vu toutes les divisions qu'on cultive et qui apparaissent, c'est quelque chose qui est effectivement, qui apparaît, enfin moi qui m'apparaît assez abstrait, et qui a peut-être marqué un temps. Et peut-être qu'on passe dans un autre temps, je n'en sais rien. Mais moi, ce que je pense, c'est que cette espèce de désespérance et d'énervement que je vois partout, c'est aussi lié à des questionnements que je trouve beaucoup trop durés. Je me dis, là, même dans l'Assemblée, quand j'entends les gens intervenir, mais je me dis, mais pourquoi, de quoi, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce que je veux ? Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce que je veux. J'aimerais que les autres personnes me disent ce qu'elles veulent, mais concrètement dans leur vie, et qu'on recommence les choses d'une certaine manière, parce que tout est à recommencer aujourd'hui, à partir d'en bas, parce qu'on ne va pas attendre qu'en haut, ils se décident et ils se mettent ensemble, parce que ça, alors là, je crois que ça s'est terminé. Et un des problèmes, justement, c'est que peut-être par rapport à cette idée de nation, la nation, pour moi, c'est un peu un moment, comme je disais, qui me paraît un peu abstrait aujourd'hui, où la légalité qui s'était mise à préserver les individus, à créer de l'état de droit, etc., elle était totalement légitime parce qu'elle correspondait à cet élan qui avait été porté par des luttes. Hein. Mais aujourd'hui, il y a la légalité d'un côté et la légitimité de l'autre. Et la légitimité, c'est nous, c'est les gens. Tous ces phénomènes de désobéissance auxquels on assiste aujourd'hui partout, encore une fois, hier très drôle, d'ailleurs, qui sont passés dans le département, la journée des shorts, dans un lycée, tout ça, le drôle est incroyable. Mais il y a des tas d'autres mouvements de désobéissance à l'administration nationale, par rapport aux travailleurs immigrés, etc., etc. La légitimité, c'est ce qui devrait être tel que c'est vécu par les gens. Et c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui. Moi, je pense que les grandes discussions théoriques sur les institutions, c'est bien sûr, et il faut, et il y a des gens même spécialisés pour ça, c'est très bien. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment refaire le monde complètement. Mais vraiment, on est vraiment tout a craqué. Tout a craqué, et on ne peut même plus vivre avec son voisin. La dame, elle ne veut pas sortir de chez elle, elle a peur, on nous injecte de la peur en permanence, et on a réellement peur. Moi, j'ai réellement peur pour l'avenir, mon avenir, l'avenir de tout, l'avenir des proches même. Donc, les choses, il me semble que les liens, ils sont vraiment à faire complètement en bas, pas avec des idées politiciennes, mais avec des idées de qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, qu'est-ce qu'on veut sauver de ce qu'on a reçu quand même aussi. Et qu'est-ce qu'on veut pour transmettre.
Juste pour répondre par rapport à ce que vous dites, pour revenir au sujet, c'est-à-dire que par rapport à tout ce que tu dis là, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a personne ici qui... Enfin, je veux dire, je pense qu'on abonde dans ce que tu dis. Maintenant, à un moment donné, par rapport à la République, on parlait d'un cadre institutionnel et politique. Et la question, c'était de savoir, est-ce que ce cadre, durant un temps, a permis des choses, a permis l'action collective, a permis la mise en œuvre d'agir des gens, la capacité de puissance des gens. Et pourquoi aujourd'hui on serait dans une impuissance, et pourquoi on aurait perdu cette capacité d'agir. Et la question, elle est de savoir est-ce que c'est lié à ce cadre républicain, ou au contraire à la disparition de ce cadre républicain. À plein d'autres choses, mais si tu veux, le cadre qu'a exposé monsieur le maire, à un moment donné, le cadre de l'action collective, quel est-il, qu'est-ce qu'il permet, qu'est-ce qu'il ne permet plus, et pourquoi. Voilà. C'est ça, à mon avis, qui est intéressant par rapport à la discussion et au débat qu'il a mené. Parce que moi, je pense que ça serait intéressant de rebondir là sur ce que tu viens de dire, mais de réfléchir par rapport à ce cadre-là. Le cadre en question, en quoi est-ce qu'il freine ça? En quoi est-ce qu'il ne permettrait pas ça? Voilà. Je pense que ça serait intéressant de l'aborder comme ça. Parce que, si tu veux, c'est tout l'objet de la discussion que l'on a avec l'Université populaire. Tout l'objet de la discussion avec les groupes de travail qu'on a monté, c'est de dire comment, à un moment donné, on redonne aux gens la capacité d'agir. Et comment on les fait sortir de l'impuissance en partant du local et de problèmes très concrets qui les affectent pour qu'ils en sortent, tu vois. Mais à un moment donné, la question, c'est en quoi est-ce que la République, et pourquoi aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, elle serait un frein. Qu'est-ce qui a changé là-dedans? Et qu'est-ce qui pose un problème? Voilà. Est-ce que... Pardon, oui, monsieur.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Je pense qu'on est tous d'accord sur un constat, c'est qu'on est dans un système qui s'essouffle, qui n'a plus rien à offrir. Vous avez cité des grands projets. La République n'est plus porteuse de projets, il n'y a plus rien, il n'y a plus grand-chose. On a tout fait pratiquement. On cite ça et là, la poste, enfin, c'est rien.
C'est rien. C'est notre possession.
Ce n'est pas ça qui empêcherait un pays de vivre.
Ah bon?
Non, du tout.
Avec des envies différentes.
Du tout,
oui, on
Mais ça ne veut pas dire. Non, c'est votre vision à vous. C'est votre vision. Je pense qu'on est au moins, je suis d'accord avec M. le maire pour dire que la République s'essouffle. Moi, je pense, j'irai même plus loin, je pense qu'elle est en train de mourir. Enfin, il faudra peut-être quelques années. Je pense qu'elle va être forte. On l'a épuisée. Je pense qu'on va rebondir sur autre chose. Quoi? On ne sait pas trop. Mais je pense que la démocratie, peut-être pas tout de suite, mais bien rapidement, il y aura une démocratie de masse. On se passera des parlementaires. À un moment ou à un autre, le décalage qu'on observe aujourd'hui, je pense qu'il va se creuser.
Monsieur au fond,
le problème n'est pas tout à fait là. En réalité, la démocratie, elle s'est mise en place chez nous, elle a pris le pouvoir à ceux qui l'avaient. À l'époque, c'était les nobles, hein, et puis elle s'est installée en bourgeoisie à sa place.
Maintenant,
aujourd'hui, il y a un espace démocratique qui n'existe pas du tout. Enfin, un espace dans le pays, enfin, dans tous les pays du monde, d'ailleurs, qui n'est pas démocratique du tout, c'est celui de l'entreprise. Voilà la prochaine révolution.
Ça, c'est sûr.
En quoi elle n'est pas démocratique?
L'entreprise.
Vous pouvez, du jour au lendemain... Attendez, vous pouvez, on n'est plus sous le communisme. Du jour au lendemain, vous pouvez devenir vous-même patron. Oh, non, attends, en tant qu'auto, messieurs, en tant qu'auto-entrepreneur, quelqu'un peut devenir patron. Son patron, vous ne le dites pas. Attendez, on est en train de prendre des extraits.
Vous avez cité beaucoup de gens qui se sont.
Je ne parle pas de multinationales.
Et qui, au bout de quelques mois, se rendent compte que finalement, ils sont en train de perdre leur temps et leur argent.
Ça ne veut pas dire que vous allez réussir, mais il y en a qui réussissent.
Pardon, monsieur.
Il ne faut pas être négatif.
Une entreprise Madame. Où il y a 50 personnes, où il y a 100 personnes, parce que vous êtes pas, l'entreprise, ce n'est pas forcément un individu. Il faut quelquefois être plusieurs pour arriver à faire quelque chose.
Déjà, les fonds, ce ne seront que quelques individus, on est d'accord là-dessus.
Mais non.
Ce ne sera pas tout le monde.
Attendez.
Ah non, le capital, il est partagé contre tout le
monde. S'il vous plaît, monsieur. Madame,
avec le plus. Vous ne pouvez rien à ça.
C'est par rapport au cadre politique, aux institutions, etc. Moi, j'ai le sentiment, comme monsieur, que les deux sont un peu piqués. Et qu'à l'heure actuelle, ce que je ressens, c'est qu'il y a un ratage, en fait, entre les citoyens et le politique. Notamment, je veux dire qu'il y a vraiment beaucoup de poussées au niveau citoyen, des gens qui sont mal. Enfin, on voit au niveau économique, les licenciements, enfin. Des prévisions de délocalisation, de fermeture, etc. Et que au niveau du politique, je veux dire qu'il n'y a pas d'apaisement, il y a plutôt, enfin, il y a un ratage, hein, il y a un manque d'écoute, quoi, de la vraie problématique de terrain, hein, alors que celle-ci est vraiment formulée. Hein, donc quand vous disiez effectivement au niveau de l'ambition sociale, au niveau de. Je dirais, l'ennemi, c'est qui l'ennemi? C'est des choses comme ça, quoi. C'est la crise économique, c'est les délocalisations, etc. Et donc là, au niveau politique, il n'y a pas de réponse, en fait. Il y a des amorces, il y a des désillusions de réponse, parce que dans la réalité, il n'y a pas de vraie réponse. Et puis il y a aussi les médias, enfin je veux dire, ce qui véhicule énormément de peur et qui fabrique aussi des thématiques genre l'insécurité, etc. Donc qui fabrique des ennemis qui ne sont pas les nôtres, en fait, hein, et qui se battent, voilà, comme ça. Et puis nous, je dirais localement, j'ai l'impression qu'on a quand même plus le sentiment d'être en prise avec le territoire, avec le terrain. Hein, et que là, il y a des choses qui se passent, et que justement, par rapport à la notion de nation, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le fait d'être citoyen, d'être habitant de l'Ouest ou d'ailleurs, et puis le fait de la nation. Et ce qu'on entend de la nation, c'est pas forcément ce qu'on vit dans notre terrain. Hein, et que ce terrain-là, si on le démultiplie, parce que finalement, si on va, je sais pas, dans une autre ville, c'est exactement les mêmes choses qui vivent que nous, ici à Arris. Et finalement, ça fait l'idée de nation, mais ce qui est véhiculé au niveau des médias, et je trouve que les médias ont quand même une responsabilité, et que c'est aussi un instrument, effectivement, de plus en plus de pouvoir, quoi, et que pour aller chercher. Une autre information, on s'en remet à des initiatives locales, à des collectifs, à des réseaux, on passe par la bande, on passe en parallèle. Vous voyez? Et il y a plein de gens qui sont au courant, enfin il y en a plein qui sont au courant de ça, et puis il y en a d'autres qui ont peur, qui ne savent pas utiliser les médias, qui n'ont pas soit cette fameuse conscience aussi, ou cette ouverture qui fait que qu'ils peuvent penser le monde autrement et sentir qu'ils peuvent agir dessus, et qui restent chez eux, quoi, qui restent barricadés, qui ont plus envie d'aller voter, etc. etc. Et je trouve qu'il y a plein de décalages, de déphasages, de choses comme ça, mais qu'il y a plein de choses qui bougent quand même, il y a plein de strates différentes. Simplement, c'est vrai qu'à un moment donné, le bouchon va sauter. Hein. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a eu les émeutes et il y a encore des, plein de trucs comme ça qui je peux vous parler des shorts, enfin, il y a plein d'initiatives qui sont vraiment démonstratives. Et les gens, c'est de plus en plus violent, enfin je veux dire manifeste, hein, quand on met des bouteilles, on dit qu'on va faire sauter les trucs, mais à un moment donné, ça va sauter. Et je trouve que ça, moi ce qui m'effarce, c'est que les politiques encore ne se rendent pas compte. Enfin, je veux dire que bon, là, c'est vraiment, c'est mesquin, c'est le profit à court terme. Voilà, où est-ce qu'on va? Et c'est vrai que réformer, mais je veux dire que c'est ça, c'est toute la question de notre vote, il va dans l'urne, on veut faire bouger les choses, on dit qu'on veut quelque chose, et ben c'est pas entendu. Et là, je dis qu'il y a un gros ratage, il y a un gros décalage, et à un moment donné, ça ne va plus fonctionner. Et je suis étonnée qu'il n'y ait pas de mouvements beaucoup plus radicaux.
Monsieur et monsieur le maire, après, pour reprendre un peu par rapport à ce qui a été dit.
Oui, moi, je crois que tout ça, c'est une question de pouvoir.
Exactement.
Le pouvoir est de plus en plus confisqué à tous les niveaux, vers ce qu'on appelle des experts. Même les politiques, quand on regarde l'Assemblée nationale, quel est le travail de l'Assemblée nationale? Pour l'essentiel, c'est de reprendre les directives qui viennent de la Commission européenne et de les traduire en droit français. Bon, je crois 70 ou 80%.
60%.
Oui, bon, c'est l'essentiel du travail. Donc, les politiques eux-mêmes n'ont plus, on leur a confisqué le pouvoir. Dans les collectivités territoriales, alors, impose des tâches de plus nombreuses, sans forcément leur en donner les moyens, et de notre côté, on leur prend les rares pouvoirs, les rares décisions qu'ils avaient le droit de prendre. Et à notre niveau, c'est exactement la même chose, à notre niveau, nous sommes dépossédés de tout pouvoir. Le problème, c'est que nous devons reprendre le pouvoir. Comment reprendre le pouvoir? Eh bien, toutes ces actions que vous avez l'air un peu de critiquer, moi je pense que ce sont des actions qui permettent de reprendre le pouvoir. Quand les ouvriers de chez Conti, etc., Goodyear, sont allés à la bourse cet après-midi pour l'occuper, même si la bourse ne sert plus à rien maintenant, elle était vide, mais quand ils vont l'occuper, c'est on reprend le pouvoir. Dans l'entreprise, aussi, dans l'entreprise, il y a une question de pouvoir. D'abord, l'entreprise n'a pas d'existence juridique, déjà. Et on le voit bien actuellement dans tous les problèmes qui se posent entre les sociétés financières et les entreprises. Les sociétés financières qui cherchent à fermer des entreprises qui sont par ailleurs fiables. Et donc, là aussi, l'entreprise n'a pas le pouvoir, c'est la société financière qui a le pouvoir. Donc la seule chose, c'est que on doit reprendre le pouvoir, et le reprendre par où? Même pas par les politiques, puisqu'on les a dépossédés.
Ils n'ont pas plus, oui.
On ne peut reprendre le pouvoir que nous, à la base.
Regarde.
Monsieur le maire, attendez, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur le maire, pour rebondir un peu sur ça.
Non mais moi je réfléchis à plein de choses.
Réagir par rapport au sujet, par rapport à ce
que... Oui, je vais essayer de rapprocher le sujet. Bon, d'abord, moi je pense en effet, je n'idéalise pas la République au sens en disant vraiment la République c'est fantastique, il n'y a que du bien, c'est un espace d'organisation de la vie publique et à l'intérieur de laquelle il y a des débats dans une société, il y a des forces qui s'affrontent, il y a des rapports de force qui évoluent. Mais ce qui est important, c'est que dans ce cadre-là, tout le monde partage les mêmes... quand même, grands idéaux qui rendent possible, après les oppositions politiques. Les grands idéaux, il y en a trois, il y en a deux, puis il y en a un qui est arrivé plus tard, le petit dernier, c'est, on doit les libertés, la liberté, c'est pas la liberté, c'est la liberté, c'est les libertés publiques, hein, c'était ça. C'est important. L'égalité, c'est quand même un sujet. Quoi qu'on pense, qu'on soit conservateur ou rouge, on considère quand même que c'est un sujet qui a un niveau d'inégalité qui n'est pas tolérable. Alors les rouges, ils vont dire il faut tous être pareils, j'ai caricature volontairement et je ne veux provoquer personne. Les conservateurs, ils vont dire non, quand même, voilà. Mais c'est un sujet pour tout le monde. La question de le niveau d'inégalité ou le degré d'égalité indispensable pour faire société. Voilà. Et troisièmement, la fraternité. Il dit, c'est le petit dernier, c'est Jaurès qui disait ça. Il disait, c'est le pont entre la liberté et l'égalité. Celui-là, il va avec. Voilà, que c'est. Mais qui parle de ça aujourd'hui? Non, mais attendez, c'est quand même un vrai sujet. Droite, comme même une partie de la gauche, qui parle que c'est vachement important de se battre pour les libertés publiques, et franchement, il y a de quoi dire dans la période dans laquelle on est, hein. Qui parle sérieusement de dire non, mais là, les gars, il y a quand même un sujet avec l'égalité dans la société. Il faudrait quand même peut-être attiboiser en haut, parce qu'il y en a qui sortent de la société par le haut, hein. Il y en a qui sortent par le bas, qui rament, mais bon, voilà, pas de sanité. Non, la matrice de la chose publique aujourd'hui, c'est il faut consommer, que vous consommiez, parce que ça, quand même, ça fait de l'économie, soutien à l'activité.
C'est ça, c'est important.
C'est enrichissez-vous, bossez, comme ça, vous enrichissez, et puis c'est le bonheur individuel.
Ça, c'est
ce qui est d'ailleurs la plus stupide, comment dirais-je, alliage de mots qui soit, parce que j'ai jamais vu, moi, s'il y a un truc auquel je crois pas, c'est le bonheur individuel. non, mais cette alliance de mots, et l'alliance, parce que vous pouvez être très bien, en pleine forme, à plein d'argent,
et tout seul.
Et être très malheureux. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc impossible, le bonheur individuel. Il n'y a pas quelque chose qui est plus impossible que le bonheur individuel. Ça, c'est par définition. Donc, c'est en ce sens-là qu'il y a une difficulté. Alors après, est-ce que c'est les citoyens eux-mêmes? Moi, là, c'est un autre sujet. Ça, c'est pas est-ce que c'est l'autogestion qui permet d'organiser la chose publique? Les citoyens eux-mêmes, franchement, j'ai quelques doutes. Ça peut être utile de rappeler qu'il y a quand même un décalage excessif entre des demandes sociales et l'organisation des pouvoirs publics. Mais moi, je suis vraiment pour en tout cas une partie de l'organisation des pouvoirs publics sous forme d'une démocratie représentative. Je crois que c'est très beau, la démocratie représentative, mais la vraie.
Oui, mais il faut que les gens aient conscience qu'ils aient un pouvoir.
Mais alors, les gens, vous trompez-vous pas sur les gens, enfin, je vous dis ça. Enfin, à la dernière présidentielle, ça a voté un maximum.
Oui.
Non, mais vous pouvez le regretter. Oui. Non, mais peu importe, à droite et à gauche. Oui, c'est un record absolu. Non, mais c'est un record. Alors, ça veut dire quelque chose. Ça veut aussi dire des insatisfactions. Ça en dit pendant, ça en dit après. Ça veut dire des appétits, mais. La procédure du vote, elle n'est pas dévalorisée. C'est une pratique qui reste une pratique jugée.
Napoléon III aussi a été
pertinente. Non, mais jugée pertinente par de nombreux citoyens. Donc, je préfère prendre la question comme elle a été dit tout à l'heure. C'est comment on fait en sorte que l'individu consommateur, il dise quand même la vie de la cité, ça m'appartient, et qu'on lui donne des outils pour devenir pleinement citoyen et dire je peux peser là-dessus.
C'est ça.
Je peux comprendre, je peux peser et comment je pèse. Ça, c'est un sujet.
On va prendre les dernières questions. Et puis après ça, vous conclurez, monsieur le maire. Donc, les dernières questions, oui.
Voilà. C'est par rapport à l'interpellation. Moi, je crois que les citoyens interpellent l'institution. C'est-à-dire qu'on y croit encore à la République. Enfin, il y a une interpellation, il y a un souhait d'interpeller. Et si Sarkozy, il a été élu, c'est parce qu'on y a cru à son discours globalement. Voilà, parce que c'était on investissait de
quelque
chose. De la majorité des gens qui ont été pour lui, c'était qu'il allait résoudre le problème, il allait prendre en charge. D'accord. Le problème, c'est comment il le prend en charge. Voilà, donc il y a une interpellation. Je crois qu'on a besoin d'une institution.
Et même en plus, pour aller dans votre sens, qui est un peu le but là, de cette école de la République et du cycle des conférences qu'on a fait, c'est que on méconnaît ce qu'il y a dans la République. C'est-à-dire que monsieur parlait de la démocratie au sein des entreprises à juste titre, mais il y a dans la constitution de la Ve République le préambule de la constitution 1946 qui parle de ça, qui dit que la République est une République sociale qui doit mettre en œuvre le débat démocratique au sein de l'entreprise. Je veux dire qu'il y a toute une série de choses par rapport au droit au logement. Enfin, je veux dire, c'est aussi dans le préambule
de la Constitution. Vous avez des gens qui meurent dehors, etc. C'est-à-dire que c'est aussi à un moment donné, je pense, se réapproprier la substantifique moelle de cette République, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent. Souvent, lorsqu'on parle d'individus citoyens, ben, c'est les individus simplement civils. On confond la civilité et la citoyenneté, notamment lorsqu'on parle de la citoyenneté chez les jeunes, c'est simplement les jeunes qui vont pas faire de bruit, vous voyez, je veux dire, ce genre de choses. Donc, il est important de remettre du sens derrière les mots, de retrouver le contenu, et je veux dire, à travers ça aussi, de faire en sorte que les personnes comprennent que c'est un cadre, selon moi, avec lequel on peut faire des choses. Juste quand même un rappel historique. En 1981, c'était quand même sous la Ve République. En 2 ans, moi j'ai souvenir que on a nationalisé toutes les banques en France, les 9 plus grands groupes industriels français, Saint-Gobain, Fushin, Eugène Kuhlmann et j'en passe. On a fait une 5e semaine de congé, on a fait une retraite à 60 ans, on a augmenté le SMIC de 25%, les allocations familiales de 50%, on a fait une IVG remboursée par la Sécu, on a fait la retraite à 60 ans, on a fait les radios libres, on a aboli la peine de mort. Enfin, je veux dire, et tout ça, ça s'est fait dans un cadre d'élection et un cadre qui était la 5e République. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que, au jour d'aujourd'hui, ce cadre-là nous semble être inefficace et avec lequel nous ne puissions plus rien faire? Moi, c'est ça qui m'interroge, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ce qu'a fait le gouvernement de gauche en 81, ben aujourd'hui, ça serait le programme d'une extrême gauche, quoi. Vous voyez, je veux dire, si jamais on ne ferait que dire, enfin, je veux dire, il y aurait aujourd'hui une personne qui oserait venir avec le programme de Mitterrand en 81, on dirait que c'est un programme d'extrême gauche. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Vous voyez, je veux dire, donc là, c'est par rapport au cadre. Non, mais c'est par rapport au cadre. Ensuite, les gens pensent ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, on parle du cadre, et c'est le but de ces conférences-là. En quoi, à un moment donné, ce cadre qui permet ça ne le permet plus à un moment donné? Et pourquoi les gens perdent leur envie d'agir, leur puissance d'agir, leur capacité à agir, et pensent qu'on ne peut plus agir avec ce cadre-là? Voilà. Oui, monsieur.
Oui, je crois que néanmoins, il ne faut pas confondre le contenant et le contenu. Que même exact. Si un dictateur est éclairé, qu'il fait des choses bien, ça n'empêche pas que c'est un dictateur. Que donc pour autant, il me semble que le cadre de la 5e République, effectivement, il faut le faire évoluer. Ça serait intéressant, on n'a pas le temps de conclure là-dessus, mais peut-être qu'on y revient, ou qu'il y ait une réflexion.
C'est un vrai sujet. Ouais.
Quel serait un cadre qui serait plus conforme à ce que l'on souhaite, enfin ce que certains souhaitent en tout cas, en termes de participation des citoyens, et qui soit plus pérenne, quoi, qui ne soit pas soumis aux aléas de tel ou tel président, de telle personnalité. Ça, c'est la première chose. Et à côté de ça, il y a, je pense, un autre problème, il y a effectivement la citoyenneté, comment on en sait, etc. Et moi, je pense que, effectivement, l'éducation populaire et ce type de manifestation, même si elles paraissent sporadiques, mais qui prendraient de plus en plus de dimensions et qui se mettraient à la portée du peuple. Parce que ce que j'ai toujours remarqué et déploré, mais bon, je n'y peux mais, c'est qu'effectivement, souvent, quand on arrive à ce genre de réunion, ben, ceux qui viennent sont déjà soit complètement convaincus par le sens de ce que va dire l'orateur, donc c'est intéressant, mais ça n'élargit pas le cercle, soit un cercle qui est parfois trop, je dirais, intellectuel et qui peut rebuter, parce qu'il y a la peur sécuritaire, mais il y a la peur de passer pour un imbécile, d'écouter toute une réunion et de n'avoir rien compris à la fin. Et donc, on ne revient pas. Et donc, ça, c'est très difficile à gérer. C'est pas une critique, hein. C'est une réflexion. Hein. Et ça, c'est très difficile à gérer, quoi. Et donc, l'éducation populaire qui repart à la base, comme on dit, et qui s'adresse au peuple, c'est quelque chose de très difficile, quoi. Et qui demande une attention et une présence constante et voilà. Et d'aller vers les gens plutôt que de leur demander de venir vers nous et vers nos concepts, quoi. Donc, on se populaire, ce que j'ai dit là, excusez-moi. Non, mais
Monsieur le maire, peut-être qu'on va conclure.
Écoutez, moi, je reprends juste ce que vous dites. Faut commencer par refaire du citoyen. Donc, c'est vrai qu'ici, tous ceux qui sont là sont éclairés, ne vont pas être convaincus s'ils passent une soirée et peut-être, je ne sais pas, une dizaine d'ici le mois de décembre dans ces conférences, et qu'ils sont convaincus de ça. Je pense qu'il faut le faire de plein de façons. Moi, je crois beaucoup à votre travail, là. Et il faut trouver aussi des formes beaucoup plus larges de réintéressement des citoyens, enfin des gens à la vie publique. Je pense d'ailleurs que nous, on va essayer de faire quelque chose. Alors, la ville, là, je parle pas faire la promotion, mais c'est une idée qui peut vous intéresser, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Je pense que un des outils, quand même, aujourd'hui, de l'écervellement général, c'est la télévision. C'est quand même l'agent de l'écervellement généralisé. Et donc, on va essayer de faire une grosse manifestation à Ris. On fera ça au mois d'avril ou même à la départée. Elle fait une journée sans télévision. Oui, non, mais attendez. Ça ne marchera qu'à une condition, c'est qu'évidemment, c'est que. Absolument. L'idée, c'est que ce jour-là et cette nuit-là, il y ait des initiatives partout dans la ville, de toute nature, philosophique, débat politique, culturel, associatif, service public ouvert la nuit, les bibliothèques, les médiathèques, des choses comme ça. Mais c'est de faire ça, bon, c'est une toute petite chose, mais j'en profite là pour le dire, parce que je pense que c'est aussi une façon. Je suis persuadé qu'on aura du monde. Je suis persuadé qu'on aura des gens qui joueront au jeu une soirée. Je suis pas sûr qu'ils reviendront après, mais c'est quand même une façon au moins de toucher d'autres gens. Mais en tout cas, refaire du citoyen par tous les bouts possibles, c'est sûrement la première étape pour réirriguer un peu cette République. En attendant, et je termine là-dessus, que peut-être, ça a été exprimé ce soir, la 5e République se termine comme les 4 qui l'ont précédée, par un coup d'État. Il y a eu deux fois les deux Napoléons, il y a eu Pétain, il y a eu De Gaulle, mais celui-là, formons le vœu que ce soit un coup d'État citoyen.
Alors, juste une information par rapport au 25 septembre. Parce que donc, là, vous avez vu, là, vous avez un programme. Donc, chaque jeudi, il y aura une conférence, soit ici, soit à Berry. Mais en plus, dans le cadre de l'université, le 25 septembre, là, on réunit les groupes du laboratoire social. Donc juste pour vous donner une information, nous avons formé cette année 12 animateurs qui ont été formés par un philosophe qui s'appelle Miguel Benassayac, qui a monté une université populaire à la cité des 4000 sous la forme de laboratoire social. Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Je vais vous traduire. On demande à des personnes qui simplement disent être affectées par un problème local, affecté par un problème, parce qu'il y a quelque chose qui vous pose problème et qui vous empêche de bien vivre. Ça peut être n'importe quoi. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Ça peut être le problème des ramassages des ordures, ça peut être les chiens qui pissent devant chez vous, ça peut être des jeunes qui font du bruit, ça peut être ce que vous voulez. Mais affecté par un problème, premièrement. Deuxièmement, qui veulent le résoudre. Voilà. C'est-à-dire qu'arrêter de subir. Et enfin, troisièmement, qui veulent le résoudre de façon collective, de venir, de constituer un groupe de travail qui va être animé par les animateurs qui ont été formés. Et donc, vous aurez à travailler tout au long de l'année à faire des expériences de résolution de ces problèmes. On a déjà deux groupes qui se sont constitués. Un groupe par rapport au commerce local, puisque les gens nous ont dit que c'est quelque chose qui leur posait problème dans le fait que le commerce disparaisse. Premier groupe. Deuxième groupe par rapport au problème d'éducation, on va plus cibler la question, parce que c'est un problème tellement vaste et général. Il y a des personnes qui parlent de violence au collège, et des personnes, etc. Donc on va essayer de cibler une question pour savoir la résoudre. Mais on laisse un troisième groupe ouvert. Donc ça veut dire que le 25, pour des personnes qui auraient envie, on vous permettrait de constituer un groupe sur un problème que vous aurez choisi, groupe avec lequel on travaillerait tout au long de l'année. Notre but étant de réfléchir au problème, de l'analyser, et ensuite de proposer des résolutions à ce problème par l'expérience, pas par uniquement une conversation, par des expériences menées très concrètes, en posant des hypothèses et en essayant de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà. C'est aussi pour répondre à ce que disait Claudette. Donc c'est une autre partie de l'université populaire qu'on appelle nous
modérateur social.
Merci. Et donc, la première réunion se passera le 25 septembre. Voilà. Merci beaucoup. Merci.